faut qu'arrivé à 30 ans, je sois millionnaire. Je me suis dit, on va arrêter d'être un gros galérien. Et il faut être régulier. Il faut pas être dans le délire de faire l'erreur que font beaucoup de monde, c'est-à-dire lancer un truc, être super chaud et tout, et puis au bout de 2-3 mois, en fait, tu l'abandonnes. Non. L'idéal, c'est tu trouves un truc et puis tu t'y tiens. Mmh. Et tu dis, comme moi, tu vois, tu vas faire un article par semaine, quoi qu'il arrive. Mmh. Comme ça, au moins, t'as un truc solide au bout d'un moment. Si tu t'éparpilles trop, ça va pas marcher. Quand t'es bien parti et que ton truc il fonctionne et que t'es tout content, t'es tout fier et qu'ensuite ça se casse la gueule, bah là ça te fait tout droit. Donc, franchement.
Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chasseurs de rêves. Ce podcast a pour ambition de partager le parcours et les clés de personnes ordinaires qui ont décidé de se bâtir une vie extraordinaire. Toutes ces personnes ont au moins un point commun, elles sont passées à l'action. Après s'être mis en déséquilibre, elles ont franchi divers points de bascule pour se rapprocher de la réalisation de leurs rêves et c'est ce que nous allons décortiquer ensemble. Je suis Alexis Castro, dirigeant d'un cabinet de conseil et j'adore stimuler les gens à agir pour être acteurs de leur vie. Je suis déterminé à rendre accessible au plus grand nombre des parcours de vie inspirants afin que chacun puisse piocher ce qui l'impacte, passe à l'action et fasse à son tour un pas vers la réalisation de ses rêves les plus profonds.
Bon, salut Marc, merci d'avoir accepté mon invitation.
Ouais, avec plaisir.
Comment tu vas ?
Eh ben, très bien, merci de m'avoir invité, c'est cool.
Moi, je t'ai connu avec le podcast de Mathieu Stéphanie. Ouais. C'était passé sur la Martingale, ouais. C'est ça, sur un épisode qui décrit un peu quelques conseils. Alors, on en parlera après de ce que tu fais dans la vie. Ouais. Et t'as gentiment accepté cette invitation, alors qu'il va être pour parler de ton parcours, ta vie, comment tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, quels ont été les premiers pas. Bon, on a fait un peu avant en off, mais du coup, voilà, en gros, c'est ça l'idée. Donc, ce que je te propose, c'est de te présenter. Et me parler un peu de ton parcours, sans limite, vas-y, lâche-toi. Ouais.
Eh ben merci. Moi j'ai créé le blog Radin Malin, radinmalinblog.com, en 2015, donc ça fait maintenant plus de 7 ans. Et au départ, c'était juste... j'ai toujours eu la fibre des bons plans, on m'a toujours dit, tu devrais faire un bouquin. Et donc, je me suis dit oui, enfin je me suis renseigné, enfin j'étais au chômage après la fac, j'ai fait des études de langue, je savais pas quoi faire de ma vie... Et bon, 2 ans de chômage à enchaîner des petits boulots, à pas savoir quoi faire, et bien finalement l'idée du livre, je l'ai retenu, mais ça a bifurqué sur un blog parce que je me suis dit peut-être qu'on pourrait faire un site internet et comme ça je le mets à jour régulièrement. Puis après, si je mets quelques encarts publicitaires, ça peut peut-être me faire un petit peu d'argent pour investir dans des parkings ou dans l'immobilier et me faire une source de revenus complémentaire, quoi. Donc j'avais déjà ça en tête dès le départ, voilà. Et je me suis dit bon, si ça marche pas, c'est pas grave, c'est gratuit de se lancer et puis ça coûte rien, il suffit de... Enfin, il suffit de se lancer, quoi. Il faut pas attendre le moment parfait. Donc, j'ai commencé et petit à petit, les gens ont commencé à aimer. Moi, je me suis un peu professionnalisé et puis voilà. Maintenant, c'est mon activité principale. Mais pendant longtemps, j'ai travaillé à côté en tant que salarié dans un service client.
Okay. Voilà. Et du coup, il y a déjà pas mal d'éléments parce que comment t'es venu déjà l'idée que ça existe les revenus passifs?
Ah oui, alors non, mais ça j'ai la fibre de ça en fait. Moi je viens d'une famille qui avait pas beaucoup d'argent et à un moment on était un peu dans la panade et bon c'est pas grave, je m'en rendais pas vraiment compte. Mais du coup on avait quand même ce souci de faire des économies. Et donc alors en plus ma mère est aveugle, donc j'allais souvent faire les courses avec elle quand j'étais petit, et je lui disais voilà tel produit, tel prix, voilà. Et donc depuis toujours j'ai été sensibilisé au prix dans les supermarchés, et puis c'est devenu un jeu, j'ai un côté gestionnaire, j'aime beaucoup jouer beaucoup à des jeux genre Age of Empires et tout, enfin j'aime bien le côté gestion dans les jeux vidéo. Oui. Et ça se ressent dans ma manière de gérer mon argent ou d'appréhender les choses. Donc forcément, les revenus passifs, c'est toujours quelque chose qui m'intéresse. Moi, si tu vois, que ce soit dans la vie ou dans un jeu vidéo, donc je prends l'exemple du jeu vidéo parce que c'est là-dedans que c'est le plus parlant et le plus fréquent. Mais dans un jeu vidéo, par exemple, tu vas avoir un choix. Non, attends, j'en ai un autre qui me vient qui est à peu près pareil. Dans un jeu d'argent, tu vois, par exemple, si tu joues à Tac au Tac gagnant à vie, ou alors je sais plus qu'est-ce qu'il y a en ce moment, mais on va te dire, voilà, t'as le choix entre gagner 1000 euros par mois à vie ou gagner 500 000 euros maintenant. Je dis une connerie, mais moi, je vais toujours choisir 1000 euros par mois à vie. Je préfère me restreindre, limite, maintenant, me restreindre maintenant, pas faire YOLO tout de suite, si je sais que ça me rapportera plus tard. Alors il y en a qui vont dire hey, il faut profiter de la vie, c'est vrai, et du coup la conséquence de ça, c'est que je fais quand même attention, je suis jamais à découvert. Si je suis en soirée, bah alors maintenant ça va mieux, mais à l'époque où j'étais au RSA ou étudiant boursier ou quoi, quand j'étais en soirée, j'allais pas payer des coûts et cramer de l'argent comme ça si je savais que ça allait me mettre dans le rouge. Il y en a qui s'en foutent totalement, c'est genre on paye d'abord, on verra après, et voilà. Moi non, j'avais toujours quand même ce truc en tête où je me disais j'essaye de profiter du moment, mais je vais pas non plus me mettre dans la merde et je réglerai mes problèmes plus tard et mettre les problèmes sous le tapis.
Ça, tu penses que ça vient de quoi, de ton éducation ou
Ouais, ça m'a marqué un petit peu de voir ma famille qui galérait, et je me suis dit, il faut que je sorte de ça, quoi. Peut-être un peu comme toi.
Hein. Ouais. Ouais, c'est dont on parlait un peu avant, moi c'était un peu pareil, on n'avait pas beaucoup d'argent, je m'en rendais pas forcément compte, mais je me rendais compte un peu plus tard que, on n'était pas ceux qui en avaient le plus, et quand on en a un peu ou quand on fait attention à l'argent, c'est quand même plus facile. C'est intéressant ce que tu dis là sur je prends tout de suite ou je prends tous les mois, parce que ça c'est purement de l'éducation financière. Ouais. Et encore, on parle pas des intérêts composés qu'on peut faire avec. Ouais. Je sais pas si tu connais l'exercice du chamallow avec les enfants.
Non.
Où en gros, il y a une étude qui avait été faite. Tu vois, on te met un chamallow, si tu le touches pas pendant, je crois que c'était une heure, on t'en met un deuxième. Et il y avait un taux d'échec assez important en fait.
Mais après aussi dans l'éducation financière. Alors après je me suis quand même intéressé aux finances. En 2015 j'étais un peu au fond du trou. RSA, chômage, fin de droit. J'ai vécu avec le minimum de ce à quoi t'as droit en tant qu'adulte en France et j'ai constaté que c'était possible quand même.
On parle
tout.
De combien du coup ?
On parle de 700 euros, c'est-à-dire voilà, si t'as rien, t'as aucun droit à quoi que ce soit, t'as quand même le RSA, c'est 500. Bon, ça c'était en 2015 quand même. 500 plus les APL, c'était 200 quelque chose.
Okay.
Donc voilà, tu te prends un petit studio dans une ville. J'étais à Bordeaux tu peux vivre, mais tu vivotes et tu survis quoi. Ouais. Mais bon, t'es pas non plus à la rue. Et c'est là que je me suis dit, putain, ça peut plus durer. C'était au moment des attentats de Charlie Hebdo, je m'en souviens, et je m'étais dit, mais putain, c'est pas possible, il faut que arrivé à 30 ans je sois millionnaire. Je me suis dit, on va arrêter d'être un gros galérien, et j'avais 25 ans. Alors spoiler alerte, ce n'est pas arrivé, parce que 1 million d'euros, quelque part c'est pas tant d'argent que ça quand tu les as ou quoi, mais en fait c'est beaucoup d'argent. Je suis toujours pas millionnaire à l'heure qu'il est, en plus, hein, parce que je pars de zéro. Et,
t'as passé les 30 ans?
Ouais. Donc j'ai raté ma vie. Non, mais et donc c'est là que j'ai commencé à m'enseigner sur comment devenir riche ou comment bien gérer son argent. Donc les revenus passifs, je connaissais déjà le principe à la base, et je me suis quand même renseigné. J'ai lu un livre qui est disponible encore gratuitement sur le site de son auteur. C'est Tout le monde mérite d'être riche, de Olivier Sauban.
C'est bon, ouais, je vois.
Et voilà, comme c'était gratuit et que j'avais pas de thunes, je me suis dit, tiens, c'est cool, je vais lire ça. Et ça m'a quand même pas mal marqué, parce que il dit beaucoup de trucs qui peuvent paraître inutiles, parce que t'es pas dedans. Donc il dit les principes, les véhicules d'enrichissement, ça va être la bourse, l'immobilier, l'entrepreneuriat. Moi, je lisais ça, je fais, ouais, la bourse, j'en ai rien à foutre. L'entrepreneuriat, je vois pas ce que je pourrais entreprendre. En plus, ça me fait peur. Et l'immobilier, j'ai pas assez d'argent. Mais quand même, en fait, en lisant ça, il te plante des graines. T'as quand même la logique du truc. Et c'est plus tard que ça m'a servi. Et donc, j'en reviens au jeu d'argent 1000 euros par mois à vie ou 500 000 euros, 1 million d'euros maintenant. En fait, logiquement, moi j'ai la logique de prendre les 1000 euros par mois, mais c'est qu'après que je me suis aperçu que, voilà, en jouant sur les placements, les leviers de crédit et tout, en fait, c'est plus intelligent de prendre la grosse somme tout de suite et de la placer, d'acheter un appart ou de la placer en SCPI pour récupérer des dividendes. Voilà, c'est plus intelligent de faire ça. Mais ça, c'est une logique qui vient qu'après. Donc d'abord, c'est bien d'avoir des bonnes bases, d'avoir la logique, et ensuite tu adaptes ta vie en fonction. Et moi c'est ce que je fais, et j'aime bien cette idée de me sécuriser et aussi de me détacher. J'avais pour objectif de soit d'être millionnaire ou soit d'être rentier à 30 ans. Toujours dans cette idée de me détacher du salariat, de pas être obligé de travailler. Alors le but, c'est pas de ne pas travailler. C'est juste de me libérer de l'obligation d'être salarié.
Ouais, mais ça c'est hyper important, parce que cette idée d'indépendance financière, Ouais. Qui est pas l'argent pour l'argent, c'est juste, bah, c'est, ça donne des choix en plus.
C'est exactement ça. Mm. Après, ça a des côtés pervers, hein. J'en parlerai après, peut-être, mais.
Ok. Ouais, je suis curieux. Ouais. Garde ça en tête, du coup. Ouais. Donc là, tu es au minimum qui peut exister en France. Mm. Et, vis-à-vis de ton entourage, comment ça se passe? Tes potes, dans quelle situation ils sont?
Tu sais, en fait, on sortait de la fac. Bon, alors, la fac, moi, j'ai fait, donc, comme je t'ai dit, des études de langue, LEA, anglais, allemand, pour ne pas le nommer. Parce que j'aimais les langues et le reste je m'en foutais, donc je savais pas ce que j'allais faire avec ça. Mmh. Donc alors de l'importance d'avoir un projet professionnel tôt dans sa vie et de pas aller jusqu'à un bac plus 5 sans savoir ce que tu vas faire avec. Parce qu'après l'atterrissage est rude.
T'as été jusqu'au bac plus 5.
Bah oui, ouais, tant qu'il y a de la lumière, tant que je gagne, je joue. Hein, tu vois, j'étais là, étudiant boursier, j'apprends l'anglais, j'apprends l'allemand, je voyage, je fais Erasmus, nickel. Ouais.
Tu l'as fait où?
En Angleterre, à Bristol. Okay. Et en Allemagne, à Düsseldorf, j'ai fait mon stage d'études. Donc tranquille, hein, bien. Moi, tu rencontres des gens, la vie étudiante, l'insouciance, c'est bon. Et après, tu te prends le mur du travail, enfin de la réalité, dans la tronche. Et alors, en plus, en LEA, c'est pas... alors, j'en profite pour tacler les facs bien comme il faut. Alors, c'est pas de leur faute parce qu'ils ont pas de thunes, parce qu'il y a plus d'argent public nulle part, de toute façon, mais... Voilà, la différence, quelle est la différence entre faire une école d'ingé, faire une école privée à 5 000, 10 000 euros l'année que tes parents peuvent te payer, que mes parents n'ont pas pu me payer, et aller à la fac parce que t'as pas de thunes? Eh ben, à la fac, il y a personne pour te conseiller, il y a pas de réseau d'anciens étudiants, ou alors très peu, il y a pas de service d'orientation, enfin, il y en a, mais c'est de la grosse merde, j'insiste bien. Les profs, ils en ont rien à cirer, enfin, sauf quelques-uns, hein. Encore une fois, il y a quand même un embryon de tout ça, mais c'est sans commune mesure avec ce que tu trouves dans les écoles privées. Et donc, à la fin, tu te retrouves là, t'as fini tes études, tu sais pas quoi faire, t'as fait un stage de merde parce que c'est toi qui l'as trouvé tout seul et que tu t'as pris ce que tu pouvais et c'est nul, ça mène à rien, il y a aucun réseau, voilà. Donc maintenant, merci, au revoir, pas de cérémonie de diplôme, tu viens le chercher dans un bureau, là.
Ah ouais.
Et ensuite, allez, au revoir monsieur, débrouille-toi.
T'es livré à toi-même tout le long, quoi.
Bien sûr. Et donc, forcément, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait que la moitié, je sais pas, les trois quarts des anciens étudiants, ils ont galéré. Voilà. Alors moi, j'ai peut-être un peu plus galéré que la moyenne, c'est vrai. Tous sont pas restés 2 ans au chômage. Parce que moi, j'ai tendance à me laisser aller quand même dans ce genre de cas. Mais voilà, qu'est-ce qu'ils ont fait les autres? Il y en a qui ont eu de la chance, qui ont trouvé des bons trucs. À leur stage, voilà, ils étaient bien tombés. Ok, tranquille. Moi et d'autres gens de ma promo, bon, bah, on a trouvé des jobs à droite, à gauche. Il y en a qui ont gardé leur job et qui ont évolué dans leur job. Des jobs alimentaires qui sont devenus finalement des boulots. Bon, voilà, finalement ça va, ils s'en sont sortis. Mais
et pas du niveau d'un bac plus 5, quoi.
Voilà, c'est ça. On va dire, si t'es dans Mario Kart, tu fais une école d'ingé ou une école de commerce, bon, bah, t'as l'étoile, quoi.
Non, mais c'est...
Alors qu'à la fac, tu te prends que des carapaces bleues tout le temps.
Non, donc, c'est clair que je me rendais pas compte que, parce que, bon, dans le domaine technique, t'as quand même des études...
c'est pas pareil.
Tu vois, qui sont gratuites, qui sont publiques. Moi, mon école d'ingé était publique. Mais par contre, c'est que du scientifique, tu vois. Je me rends compte, je pensais au DUT, des choses comme ça, mais c'est quand même plutôt scientifique. T'en as un peu dans le commerce, mais sur les langues et tout, t'as pas ça.
Excuse-moi, c'est vrai, j'ai oublié de préciser que les facs de sciences, c'est quand même autre chose.
Okay.
Oui, c'est vrai. Moi, je te parle des facs de tout ce qui est langue, lettres,
psychologie. Ouais, psycho, tout ça, c'est vrai qu'on n'a pas d'autres études plus intimistes où t'as des classes de 30, 40.
Ouais,
c'est que des gros amphis, quoi, en fait.
Que même si tu fais une, enfin, LEA, c'est un peu l'école du commerce du pauvre, ou alors les langues pour celui qui veut pas, qui est pas trop littéraire. Mais voilà, effectivement, j'aurais pu faire prof. J'ai fait prof, d'ailleurs, dans un collège. J'ai tenu une journée. Hein. J'ai fait, oh là là, tu veux faire prof remplaçant, tu t'inscris, ok, vous commencez mardi, t'as aucune formation, rien du tout, tu te retrouves devant une classe d'élèves, en fait, plus gros stress de ma vie. J'ai essayé de faire steward aussi, c'était une très bonne expérience, mais bon plan pour ceux qui nous écoutent, hein, Air France. Aux alentours du mois d'octobre, novembre, chaque année, ils font une campagne de recrutement d'étudiants l'été, et donc tu peux faire steward ou hôtesse de l'air pendant un été chez Air France sur des longs courriers. C'est bien payé, c'est payé dans les 2000 quelque chose, peut-être dans des hôtels de luxe. C'est le meilleur job d'été qui existe.
Mais comment t'en as connu, comment tu l'as?
Parce que ma tante, la voisine de ma tante était hôtesse de l'air, on en avait parlé quand j'étais au collège, c'était resté dans ma tête. Je m'étais dit attends, ça je me le garde. voilà, les sélections sont dures, mais si tu arrives, c'est bien.
Du coup, tu l'as fait, tu fais la sélection d'octobre-novembre pour l'été qui suit.
Ouais, c'est ça.
Ok.
Et donc j'avais fait ça, j'ai eu de la chance. La première fois, je l'ai raté. La deuxième fois, j'ai réussi. Et donc prof, ça m'a pas plu. Stewart, c'était bien, mais je me suis dit toute la vie, c'est quand même un boulot de ouf. C'est voilà. Traducteur, c'est j'avais essayé, j'ai pas réussi, mais de toute façon, c'est quand même assez monotone comme boulot.
Ouais.
Et finalement, même si l'entrepreneuriat, ça me fait peur, j'ai quand même la fibre gestion, j'aime bien gérer mon truc. Et donc voilà, ça a bifurqué sur le blog. Mais j'ai mis du temps à me trouver. Et pour tous ceux qui arrivent pas à se trouver, j'ai envie de dire, voilà, ça met du temps, mais ça finit par venir. Donc il faut pas perdre espoir.
Oui, oui. Donc là, en fait, toi, tu t'es en situation où tu te cherches un peu. T'es le référent bon plan dans ton entourage, si je comprends bien. On te dit, bah, écris un livre. Tu dis, bon, je vais faire un blog, c'est ça?
Ouais.
Et là, tu commences à faire le blog et ça commence à prendre d'abord dans ton entourage. Comment tu te fais connaître?
Ah non, mais c'est très lent, hein. Ouais. C'est très, très lent.
Et là, tu vis du RSA, du coup?
Non, parce que entre-temps, le moment où j'ai commencé le blog, en fait, c'est le moment où j'ai aussi déménagé à Paris pour rejoindre des amis qui étaient partis à Paris pour trouver du boulot, parce que en province, j'arrivais pas, même dans des grandes villes. Et donc, on m'avait proposé ce boulot-là, service client, dans une filiale d'Air France, justement, parce que j'avais bossé chez Air France et que je parle allemand. Donc, très bien, enfin, c'est une denrée rare, il n'y a plus personne qui apprend l'allemand, donc du coup, tu trouves du boulot. Et donc je me suis dit ok bah vas-y call center en banlieue parisienne on va le faire, de toute façon il me faut un CDI et en plus moi je voulais un CDI pour pouvoir investir dans l'immobilier.
Ok, t'avais déjà cette vision là de lever.
Ouais, je me disais CDI dès que j'ai fait les 3 mois du CDI, les 3 mois d'essai, le CDI est confirmé, je peux investir dans l'immobilier, donc j'achète un parking. Et il s'est avéré que j'ai fait une mauvaise opération mais j'ai perdu 2000 dans l'histoire. Parce que le parking, je l'ai mal choisi et tout. Mais c'est pas grave. Justement, c'était prévu dès le départ. Je me suis dit, si je me plante sur un parking à 10 000 euros, c'est pas la fin de ma vie.
C'est mieux que sur un appart à 300 000.
Voilà.
Ouais.
Donc, je me suis dit, on va mettre de côté, on va investir et on va essayer de devenir rentier. Entre temps, j'ai acheté des actions Tesla aussi. voilà, que j'ai revendu bien plus tard, en 2020, quand tout s'est cassé la figure, pensant les racheter plus bas, et ça n'a pas été le cas parce que j'ai revendu au plus bas. Donc là aussi, j'ai fait une erreur et j'ai racheté plus haut après. Donc voilà, si j'avais pas fait ça, si j'avais pas essayé de timer le marché, là, je serais millionnaire à l'heure qu'il est. Ouais. Et donc, c'est pas grave, parce qu'en fait, tout ça, ça veut dire que j'ai pas perdu d'argent non plus dans l'histoire. Tu fais des trucs, tu testes, et voilà, quand tu te pètes la gueule, tu te pètes la gueule, et puis après, tu continues. Donc, ça vaut pour tout, que ce soit la bourse, l'immobilier, l'entrepreneuriat. Et donc, voilà, moi, je m'étais dit, je vais manger mon pain noir, je vais aller là-bas, faire mon boulot service client. J'y suis resté 3 ans et demi. Et ce qui est bien quand tu fais un boulot alimentaire comme ça, c'est d'avoir un truc à côté, de savoir pourquoi tu le fais. Parce que si t'y vas et que tu sais pas quoi faire d'autre, là tu vas te tirer une balle. Donc non, moi j'y allais, je savais pourquoi j'y allais, quoi. Je mettais de côté le plus possible et je voulais devenir rentier, ou enfin indépendant financièrement, hein, pour utiliser un mot plus accepté. Mais voilà, quoi.
Oui, c'est la même chose.
Ouais.
Et du coup, pourquoi t'as pas choisi un job où tu peux faire autre chose pendant, tu vois, comme gardien d'hôtel ou de parking? Je sais que c'est un truc aussi.
Ouais, c'est vrai, ouais. Parce que j'étais à bout de motivation, en fait, je savais pas quoi faire, et on m'a proposé ça, je dis allez, ok, c'est bon, okay, vas-y, je le fais, quoi. C'est tout, hein. Et c'était pas plus mal, finalement, parce qu'en plus, j'utilisais l'allemand, donc je perdais pas l'allemand.
Oui, c'est vrai. Donc, oui, cognitivement, c'était plus intéressant.
Ouais. Même si c'était dur et que c'était... Puis après, j'ai appris à utiliser leur logiciel de réservation qui est impossiblement compliqué. Et voilà, hein. Je sais pas, ça m'est tombé dessus. J'ai dit, on va pas réfléchir plus loin. Ouais. Si tu réfléchis trop, en fait, tu fais rien. Donc, c'était un peu mon cas à ce moment-là.
Ok, donc là, t'es en région parisienne pendant 3 ans et demi. Ça nous mène à quelle année? Et pendant ce temps, du coup, tu commences à développer le blog, c'est ça?
Et d'ailleurs, bon plan de logement à Paris. Ce qui m'est arrivé, c'est que ça, personne m'en parlait, mais je l'ai trouvé un peu tout seul. J'avais un 45 mètres carrés pour 500 euros par mois dans le 19e. Et alors ok, c'était pas le quartier le plus glamour, mais en attendant, c'est de la science-fiction, vous voyez, comme ça, c'est trois fois moins cher, avec le chauffage inclus et tout. Et c'était du 1% patronal.
Okay.
Donc voilà, il faut vérifier avec ton entreprise si t'as droit à un logement. Alors, Action Logement, ça s'appelle maintenant.
Ouais.
Et c'est un super bon plan, parce que ça m'a permis d'économiser pas mal d'argent pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans même, j'y suis resté. Voilà, et donc, pendant ce temps-là, je développe mon blog.
ton bon plan logement aussi, tant qu'on y est, parce que j'avais commencé à t'en parler en off avant, et on n'a pas fini, parce que j'ai dit que moi aussi j'étais corrézien, et il se trouve que, bah oui, terre de président, on l'a dit, et moi j'étais à la résidence Corrèze. En fait, il y a une résidence pour les étudiants, ou les jeunes en tout cas, il y a des conditions, tu vois, qui est à Montparnasse, et que je sais plus combien je payais, mais j'avais les appels aussi, c'était quelques centaines d'euros, quoi.
Putain, mais c'est vachement bien, ça.
Ouais, les Aveyronnais ont ça aussi.
Ah ouais.
Ouais, je sais pas qui d'autre, mais t'as quelques provinces, régions de province comme ça qui ont, acheter un, enfin, pas comment ça se passe, tu vois, mais un bâtiment en, à Paris pour aider les personnes à partir de la province pour aller à Paris.
Ah, mais c'est
donc, faut s'enseigner sur la région.
Ah, ouais. Bah, tu vois, voilà.
Ouais, le département.
D'ailleurs, il y a un article sur mon blog, où je parle de comment savoir à quelle aide sociale on a droit.
Ah, oui.
Et il y a une plateforme, notamment, c'est mesaides.gouv.fr, mais il y a d'autres sites, et en fait, j'explique qu'il faut, éplucher un peu toutes les aides, parce qu'il y a des aides auxquelles on a droit et des fois on n'est même pas au courant. Moi je me suis fait payer mon permis par Pôle emploi comme ça. Il y a des aides au niveau d'association, au niveau de la région, du département, de la ville, enfin voilà quoi. Quand on est un peu en galère, c'est bien de le savoir. Et donc le blog, j'ai commencé à le faire et je me suis dit, donc j'ai lu un peu tout ce qu'il y avait sur comment faire un blog et comment le monétiser, donc les Olivier Roland et compagnie, voilà. Et je me suis dit, on va faire un article par semaine, quoi qu'il arrive. Et c'est ce que je fais depuis 7 ans en fait, c'est vrai, ça passe vite. Mais ouais, je fais un article par semaine, quoi qu'il arrive. Les moments où j'ai levé le pied, parce que ça m'est arrivé, où je me suis dit, ouais, je suis en vacances, je vais pas faire d'articles, ou alors je vais recycler des articles. Je l'ai regretté après. Donc voilà, si j'ai un conseil pour tous ceux qui font un blog, c'est d'une part, les blogs, c'est pas mort. Hein, ça fait 15 ans qu'on dit que c'est mort, c'est pas mort. Et d'autre part, il faut être régulier. Un article par semaine, c'est parfait, c'est très bien. Si tu peux faire plus, fais plus.
Ça, dans la création de contenu, ouais, c'est vrai qu'on entend souvent que la discipline, c'est le plus important.
Ah ouais, tu te poses, tu dis, ok, un article par semaine. Je laisse pas un dimanche passer sans faire un article. Sauf, alors, un article toutes les deux semaines. Si tu veux, peut-être, tu peux aussi te poser ça comme objectif. C'est moins bien, ça va être plus lent. Tu peux, ça va quand même donner quelque chose au bout d'un moment. Et faut pas décourager quand tu vois que ça décolle pas. C'est normal, un site tout nouveau... ça va décoller au bout de, je sais pas, au bout de 6 mois, 1 an, ça va commencer à avoir du trafic, mais ça va être très timide et c'est normal. Et voilà. Et ton site, c'est ton site. Personne peut y toucher. Les réseaux sociaux, Instagram, enfin Facebook, tiens, je prends le meilleur exemple, Facebook, qui ont changé leurs règles en 2018 ou je sais pas quoi. Eh ben, il y a des gros sites entiers qui sont tombés, à cause de ça, quoi, qui ont fait faillite parce que Facebook a changé leurs règles d'un seul coup et que ça leur faisait beaucoup moins de trafic.
Ouais, point super important, ça, quand, pour des gens qui veulent faire de la création de contenu, c'est être, entre guillemets, propriétaire de son audience.
Ouais.
Moi, j'avais interviewé aussi Ulysse Lubin, bon, je sais pas si tu le connais,
qui
vit aussi la création de contenu, et c'est souvent quelque chose qu'on entend, donc soit la newsletter, soit le blog, où là, effectivement, le trafic, il t'appartient. Ouais. Et toi, donc, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est le premier pas. Donc, bon, après savoir comment faire un blog, la plateforme et tout ça, tu trouves techniquement, tu fais un article, comment t'en parles?
Alors, donc déjà, t'as ton idée, tu veux faire ton blog. Premièrement, fais-le. Moi, c'est ce que j'ai envie de dire. J'ai pas attendu le moment parfait. Parce que si tu commences à vouloir faire un joli site, moi je veux que la bande elle soit noire et que le bouton il soit placé là et tout, tu t'en sortiras jamais. Surtout si tu connais rien. Donc moi, je me suis dit, je suis pas développeur. Je vais faire un site WordPress. WordPress payant, hein, pour ceux qui nous écoutent, surtout, très important. Et je vais prendre un thème de base, et puis je vais m'adapter au thème, tu vois. Je vais pas essayer de le faire comme je veux. Je vais dire non, si j'arrive pas à le faire, eh ben ok, le bouton il sera noir et il sera rond et il sera là, tu vois. Tant pis, on n'attend pas le moment parfait, on fait le truc, même si c'est pas parfait. Donc j'avais sorti un premier article, comment faire des économies sur les billets de train. Et j'ai fait la pub de mon blog sur Reddit, sur Reddit France, mais à l'époque, Reddit, j'y étais un petit peu, mais je savais pas trop comment ça marchait. Mais j'ai eu beaucoup de chance, parce qu'il y a un journaliste de West France qui m'a contacté parce qu'il avait vu ça. Donc c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance qu'un journaliste me contacte et me dise et m'interviewe pour mon blog. Et il m'a interviewé et il m'a donc j'ai eu un article sur westfrance.fr avec un lien vers mon blog. Alors ça c'est le Graal, hein. Ça c'est le Graal, c'est des trucs un lien, un backlink comme ça sur un article de presse normalement, si tu dois le payer, ça se monnaie 2000, 3000 euros, tu vois. Et ça te rapporte énormément de trafic et de confiance aux yeux de Google. Alors, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir ça dès le départ. Et ça m'a certainement boosté, c'est vrai. Mais même sans ça, ça aurait quand même fini par se positionner. Je le vois maintenant, je le sais d'expérience que ça aurait fini par se positionner. Parce que le contenu était de qualité. Parce que l'article que j'ai écrit sur les billets de train, voilà, les mots-clés, c'était possible de se placer dessus. Le contenu répondait vraiment à l'intention de recherche de l'internaute. Donc ça aurait fini par se placer. Peut-être un peu moins de trafic, peut-être un peu plus lentement, mais voilà. Et j'ai eu de la chance quand même qu'il y ait eu ce journaliste, mais même sans ça, ça aurait fini par se placer. Et puis, si je m'étais pas lancé et si j'en avais pas fait la promo sur les réseaux, sur Reddit et tout, ce journaliste-là, il m'aurait pas vu.
Bien aussi. Sûr. Voilà. Oui, c'est quoi ça avait fait. Hein.
Les journalistes, c'est un petit peu les cartes chance au Monopoly. En fait, tu fais ton blog... Tu fais ton ou alors ton Instagram ou n'importe quoi, tu continues, et puis un beau jour, il y a un journaliste qui va te contacter, c'est obligé. Moi ça m'arrive souvent. Et voilà, et donc tu parleras de ta spécialité. Ouais, ta spécialité, c'est le kite, et tu fais tu fais un blog sur le kite, et au bout d'un moment, t'as un journaliste de magazine spécialisé dans le kite qui va te contacter.
Ouais, parce qu'ils cherchent sans arrêt leur contenu aussi. Ah, hein, ouais.
Parce que pour peu que tu fasses un bel article sur un truc, sur un sujet de niche qui a pas encore été développé à fond et tout, tu mets tes petites photos à toi, tu mets tes petites impressions à toi, bon bah voilà, ça apporte de la valeur en fait, ça répond aux questions des internautes.
D'ailleurs intéressant, tu parles de kite, donc je repense à Olivier Roland, tu te dis où est le rapport. En fait Olivier Roland, moi tu sais que c'est le premier mec qui m'a montré que c'était possible de travailler autrement en fait, d'un peu partout, de vivre de son blog, de vivre de quelque chose comme ça. C'est lui qui m'a fait découvrir ça, je te parle de ça il y a peut-être 10 ans, quand j'étais voilà, à l'usine, ingé, machin. Et ben lui, il était aussi à l'événement où j'ai vu Mathieu Stéphanie de kite.
Ah, tu vois.
Donc j'ai vu les deux en même temps, c'est ça rigolo.
Okay.
Et bon bref, tout ça, ce qui m'intéresse le plus, c'est me dire, ben, tiens Olivier Roland, comment tu utilises son contenu? Est-ce que t'as pris sa formation payante? Est-ce que t'as juste pris ce qu'il faisait gratuitement?
J'ai juste pris ce qu'il faisait gratuitement. D'ailleurs, pour la petite histoire, sa formation payante, j'ai fini par la prendre l'an dernier. J'ai cramé mon CPF, je me suis dit, tiens, voilà, j'ai un CPF, voilà. Eh ben, j'ai lâché au bout de, au bout de quelques semaines. Pourquoi? Parce que je suis trop occupé avec le blog, j'ai trop de trucs à régler. Et alors oui, j'aurais dû la suivre jusqu'au bout, mais en fait, comme je suis déjà lancé, j'ai abandonné comme un con. Donc j'ai été très con.
C'était peut-être plus pour les débutants, du coup?
C'est plus pour les débutants. Et puis, en plus, le business model qu'il vend dans sa formation, c'est pas le mien. Lui, il va dire faites une formation. En fait, il explique comment créer des formations. Toi, tu fais un blog sur le kite. Lui, il va dire voilà, tu vas d'abord faire un blog avec du bon contenu gratuit. Jusqu'ici, c'est comme moi. Mais après, tu vas développer des produits. Tu vas vendre tes formations sur comment faire du kite, comment bien préparer ton kite, etc. Et oui, ça peut marcher, ça marche très bien pour beaucoup de gens, mais c'est vrai que moi je me suis orienté vers un autre business model qui est toujours sur les conseils d'Olivier Roland, parce que ça aussi il en parle, d'affiliation, de partenariat, de vente de liens, voilà, un petit peu de pub par-ci par-là. Et moi ça marche comme ça. Et après, pour des raisons fiscales aussi, bon, je vais pas m'étendre là-dessus, mais j'ai pas voulu me lancer dans une formation pour plusieurs raisons, parce que aussi pour des raisons de mon audience, elle a pas trop d'argent aussi, tu vois, les gens ils sont à la dèche, donc je me suis dit, peut-être à tort, mais je me suis dit, est-ce que je vais m'emmerder à faire une méga formation et à la vendre plusieurs dizaines ou plusieurs centaines d'euros à des gens qui sont au centime près? J'ai eu la flemme, très sincèrement, et je me suis dit non, je vais continuer sur l'affiliation, sur les partenariats. Peut-être que j'ai eu tort, c'est vrai, c'est un peu un discours de feignasse, mais voilà, j'estime que quand tu fais un blog sur la photo ou sur le kite, tu vises des gens qui ont de la thune. Alors que moi, non. Donc, je serais obligé de le vendre pas cher, mon produit. Puis d'ailleurs, j'en veux pour preuve, en fait. Ce qui m'a aussi mis la puce à l'oreille, c'est que de tous mes concurrents, franchement, il y en a très peu qui font ça. Et le peu qui vendent des formations ou des produits à eux, c'est des trucs pas chers, c'est des guides de comment gérer ton budget, des tableaux Excel de budget ou des trucs comme ça. Et ça marche pas bien, sinon ils le mettraient plus en avant. Là, ça se voit pas sur leur site, donc non. Moi, mon modèle de budget familial ou ma liste de courses gratuite à imprimer, tu vois, c'est gratuit. Tu peux le trouver sur mon blog, c'est gratuit. Je me suis dit, bon, je vais le faire gratuitement, plutôt que d'essayer de le refourguer 2 balles, 3 balles à des gens qui ont pas de thunes, je vais en vendre 10 et je vais gagner 30 euros. Non, c'est nul. Donc, voilà. Très sincèrement, c'est ça, tu vois. Je me suis dit, non, on va rester sur le modèle affiliation et tout.
Voilà. D'ailleurs, son livre, tu l'as lu ou pas? Tout le monde
non,
n'a pas eu la chance de rater ses études. Et moi, je le trouve très, très, très bien.
Ah oui, c'est vrai.
Ouais, pour n'importe qui voudrait se lancer en entrepreneuriat, je trouve que c'est pas mal comme base parce qu'il reprend pas mal de concepts de livres américains.
Ouais.
Fait à sa sauce. Et son histoire est intéressante, donc j'ai beaucoup aimé son livre.
Ouais, je lis beaucoup de son contenu. J'ai beaucoup lu de son contenu gratuit et je regarde pas mal de ses vidéos sur YouTube. Le livre, j'imagine qu'il est très bien et c'est vrai que je l'ai pas lu, mais dans ce que dit Olivier Seban aussi,
oui.
Dans Tout le monde mérite d'être riche, j'imagine qu'on retrouve de ces idées-là. En fait,
ça se recoupe, hein.
Ouais, c'est ça. J'ai consommé tellement de contenu de ce style-là que je me dis bon, ça va, je sais ce qu'il va dire. Et, encore une fois, peut-être.
C'était pareil. Bon, il y a un moment où Olivier Roland il me saoulait dans ses vidéos, clairement. Je lui avais dit d'ailleurs quand je l'avais vu. Et du coup, c'était au moment du lancement de son livre. Genre, moi, je veux même pas acheter son livre. Et en fait, c'est d'autres gens qui m'en ont parlé, qui le connaissaient pas d'avant. Ouais. Je fais attends, moi, je le connais depuis 10 ans. Je rate ses vidéos et tout. Bah, on va pas mourir bête. Je vais le lire. Et qualitatif. Ouais. Et il l'a fait en mode BD aussi.
Ok. Et dans le livre, il y a des trucs que tu trouves pas ailleurs.
Bonne question. J'irais que la manière d'amener les choses et il y a aussi une manière de passer à l'action qui est intéressante que t'as peut-être pas ailleurs.
Ouais.
Le contenu en tant que tel, les idées peut-être pas, mais didactiquement, tu peux te dire bah ok, je fais ça, où je vais chercher l'info, comment je fais le premier pas. Et moi j'aime bien cette idée-là.
Ouais. Non, mais je dis pas le contraire. Hein. Moi je pense que ça doit être une bonne lecture. Peut-être qu'il faudrait que je le lise, mais ouais. C'est vrai que je l'ai pas lu pour l'instant en tout cas.
Petite parenthèse. du coup là, toi tu donc si on reprend le cursus de manière chronologique. Donc t'es tu bosses dans le service assistant téléphonique, enfin je sais plus
le service client.
Client. Tu commences à faire le blog à ce moment-là. On est en quelle année?
2015.
2015, donc pendant 3 ans et demi, donc 2015 jusqu'à 2018-2019.
Ouais. Et 2019, donc 10 janvier 2019, le jour de mes 30 ans, c'est là que j'ai démissionné.
Okay.
Tiens, c'est symbolique. J'ai commencé d'abord par faire du temps partiel, 60%, et puis ensuite 50%, puis ensuite je me suis dit, on va démissionner. J'ai un peu pêché par arrogance aussi, parce que quand j'ai démissionné, tout allait bien, le blog était à fond. Tu peux aller sur, je sais pas, sur SEMrush et regarder ma courbe de trafic depuis le début du blog, et tu verras qu'en 2019, waouh, c'est la folie. Parce que je suis passé à la RTBF en plus. Ah oui. De l'importance de garder des liens avec tout le monde et de discuter avec les gens et de pas être tout seul dans son coin. Tu vois, par exemple, je suis passé à la RTBF et ça m'a beaucoup aidé. Pourtant, l'audience est pas non plus folle, quoi. C'est pas comme si tu passais à Capital sur M6 ou quoi. Mais ça a plu à beaucoup de gens, ça m'a apporté beaucoup de trafic. Et qu'est-ce que je veux dire? Et ça, c'est arrivé que parce que j'ai gardé contact et j'ai continué à prendre des nouvelles de gens dont je pensais même pas qu'un jour ça pourrait m'amener là. Donc c'est quand même important d'entretenir ces relations sociales. Et alors sur le côté radin malin, on me demande souvent, est-ce que vous êtes radin? Voilà, bon, c'est les journalistes, ils aiment ça forcément. Oui. Et moi, je dis souvent, oui, alors je suis radin avec moi-même, hein, mais... parce que j'ai cette logique de, enfin, je fais gaffe à la thune, mais même si je me fais plaisir de plus en plus, mais voilà. Mais moi, ce qui me fait plaisir, c'est de chasser les bons plans aussi. mais je suis pas radin dans les relations sociales. Tu vois, j'essaye de faire en sorte que ça n'entrave pas les relations sociales, parce que je mets quand même mes amis très haut dans mes priorités. C'est très important pour moi, donc je garde contact de temps en temps, je prends des nouvelles et tout. Et donc là, c'était une copine d'Erasmus à Bristol, avec qui j'avais plus ou moins gardé contact, même très léger, hein. C'est rare qu'on s'appelle, mais voilà. Et elle m'avait dit, ah ouais, moi maintenant j'habite en Belgique, je bosse assistante de prod, ou je sais plus, journaliste, je sais même plus ce qu'elle fait, attends, ça fait trop longtemps que j'ai pas eu de nouvelles, à la RTBF. Et voilà, on avait juste discuté, et puis un beau jour, elle me renvoie un message, elle me dit, ah tiens, j'ai croisé un collègue dans le métro qui cherchait un profil de quelqu'un qui a arrêté de travailler avant 40 ans, et voilà, et je vais parler de toi. Et voilà, donc c'est comme ça que les gars, ils sont venus à Paris,
Ah, ils sont venus et tout. Ça tient un peu de choses, hein, un contact, une relation.
Tu vois, voilà, donc ils étaient super cool et tout, et donc bim, passage à la télé, RTBF, et Dieu sait combien de gens m'ont repéré ensuite comme ça, et en fait, voilà. Donc c'est bien quand tu rencontres des gens dans des événements style Olivier Roland ou des trucs comme ça, tu prends des numéros, tu discutes, et puis d'une part c'est agréable, c'est intéressant,
bien
et d'une part tu sais jamais à quoi ça peut te mener de 5 ans plus tard.
Donc, et tes bons plans étaient applicables en Belgique aussi du coup?
Non, mais c'était un reportage qui était axé sur devenir rentier, ou alors en tout cas arrêter de travailler.
Ouais, parce que toi du coup, pour voir les différentes étapes, parce que là, c'est important, donc t'es passé à temps partiel, qu'est-ce qui t'a fait passer à temps partiel et combien de revenus tu générais à peu près?
Alors, ouais, donc en 2019, c'est là où j'ai gagné le plus avec mon blog. Et après, ça s'est cassé la gueule. Et après, okay. j'ai retravaillé pour que ça revienne un peu. Donc voilà, maintenant, je me suis stabilisé vitesse ouais. de croisière, quoi. Mais quand j'ai lâché mon boulot, je commençais à gagner 1500, 1700, 2000.
Okay.
C'est monté à 2500 okay. brut. Hein, donc, ouais. une fois que tu payes les impôts, tu gagnes plus que... Tu étais à 2500, tu gagnes 1700 net. Mm. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, tu sais quoi, je vais passer à mi-temps. Hein. Mmh, de toute façon, je peux toujours revenir à plein temps si jamais ça va pas. Mmh. Et après, bah, j'ai lâché mon taf au bout de, je sais pas, 8 mois plus tard, parce que je voyais que ça marchait, que pourquoi je resterais à mon boulot si je gagne de l'argent avec mon blog. Et comme ça, au moins, je suis pas obligé de demander pour avoir des congés et compagnie.
Ouais.
Je fais ce que je veux comme je veux. Et pardon, j'ai oublié...
T'avais ce, donc ce, ouais, c'est ce besoin de liberté qui te fait quitter ton
oui,
taf.
Oui, voilà, ou... et puis bon, mais mon taf, j'avais un peu fait le tour, ça ouais. m'emmerdait un peu, ouais. j'avais pas trop envie de continuer, donc voilà.
Et du coup, pour avoir 1500 euros de revenus net, il te faut quel trafic ?
Ah ouais, mais alors là, c'est compliqué, hein, parce que c'est pas le trafic qui...
Okay.
Enfin, c'est juste un facteur, mais après, ça dépend comment
c'est
tu monétises.
C'est la conversion, les liens, l'affiliation.
Ouais, ça dépend comment tu monétises, ça dépend ce que tu fais, ça dépend tellement de choses. Il y en a qui gagnent plus que moi avec moins de trafic. Hein. Il y en a beaucoup. Bah, d'ailleurs, bah, ouais, encore une fois, Olivier Roland, t'as un petit blog de kite, t'as 200 visiteurs par jour, tu peux quand même gagner plus que moi.
Ouais,
le trafic, j'étais autour des 100 000 visiteurs par mois, même plus. Au plus haut en 2019. Là, je commence à revenir gentiment à ce niveau-là. D'ailleurs.
Ça me semble énorme.
Ouais, ça fait quand même 3-4 000 visiteurs par jour.
C'est énorme.
Mais c'est parce que je me place aussi sur des requêtes qui sont parfois difficilement monétisables. Tu vois, par exemple, là, mon article le plus lu en ce moment, ça m'énerve un peu, mais c'est comment convertir des vidéos YouTube en MP3.
Ah ouais.
Donc, ah ouais, d'ailleurs, petit détail, quand tu fais ton blog ou quand tu fais d'ailleurs n'importe quoi, hein, ça, je pense que ça marche pour beaucoup de business. Tu vas mettre tout ton cœur et toute ton énergie dans un super article où tu vas chercher des bonnes sources et tout, tu vas faire des graphiques, des infographies, tu vas sortir un article, tu vas le faire avec tout ton cœur et tout, et il va se placer nulle part, personne va le lire, tout le monde s'en fout. Et puis après, tu vas faire un article avec les pieds en deux spies, là, et puis bim, ça devient ton article le plus vu du blog. Et là, je fais merde. Et alors, c'est pas grave, c'est bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent sur le blog grâce à ça. Donc,
oui, et après, ils voient le reste. Ouais.
Tant mieux. Et puis voilà, pour tout te dire, après, moi, j'ai négocié avec un. Enfin, j'ai vendu une place dans cet article à un logiciel de conversion de YouTube en MP3. Ils m'ont dit, ouais, voilà, votre article est bien référencé, est-ce qu'on peut figurer dessus?
Okay. C'est eux qui viennent te voir.
Ah ouais. Bah ouais, c'est eux qui viennent me voir, je leur fais ok, ouais. c'est le temps, et puis voilà quoi.
Okay.
Et très bien, voilà, c'est comme ça que tu monétises. Ouais. Et puis après, tu monétises aussi en faisant en sorte que les gens ils atterrissent sur ton blog, donc tu mets des petits liens dans l'article pour dire oui, pour bien gérer votre budget, bim, un lien vers l'article sur comment gérer son budget. Donc voilà, tu récupères quand même, tu captes du trafic en faisant ça aussi. Donc c'est bien d'avoir du trafic, même sur un sujet qui est pas monétisable de toute façon.
Ah mais moi c'est comme ça que je passe du temps sur internet que je devrais pas passer, c'est que je vais sur un blog et je vois le lien d'un autre article, je vais ouvrir l'autre et après je me retrouve avec 15 onglets parce qu'il y a plein de trucs qui m'intéressent.
Moi c'est pareil, j'ai jamais moins de 15 onglets d'ouvert,
malheureusement. Ok, intéressant. Et donc, parce que moi je connais pas trop le business model en détail, donc en fait toi tu te rémunères aujourd'hui grâce à... Donc par exemple des pubs qu'il peut y avoir pour ce logiciel là, après c'est quoi d'autre,
je vends des liens pas mal, c'est vrai que je vends des liens, enfin j'essaye de pas trop le faire parce que j'ai pas envie que ça devienne un sapin de Noël truc, ou une ferme de liens. Donc quand je vends des liens, je le fais de manière qualitative, voilà, la personne qui veut m'acheter un lien, un site de je sais pas de rachat de crédit qui veut m'acheter un lien, bon, je le fais pas trop parce que rachat de crédit c'est vachement délicat, mais je sais pas, je prends n'importe quel temps. On va mettre un lien mais on va faire un article tout autour, et un vrai article, pas un article que quand tu le lis, tu sens que le gars qui l'a écrit, il sait de quoi il parle. Parce que trop souvent, il y a des fermes de liens, ils te vendent des liens dans des articles, et tu vois bien que l'article a été écrit uniquement pour placer un lien. Et tu vois que tu sens bien que la personne qui l'a écrit ne sait pas de quoi il parle. Donc moi, j'ai envie que chaque article sur mon blog apprenne quelque chose au lecteur, qui serve à quelque chose. Et je veux pas d'un article bateau qui te remixe tout ce qui existe déjà, ça sert à rien. Et après, voilà, ça peut être une technique de référencement de faire ça. Ça s'appelle du spinning. Tu prends un article existant et tu l'écris autrement et ça te fait du contenu unique, entre guillemets. Oui, d'accord. Bon, ça, c'est des techniques de SEO. Mais moi, ce que je fais sur mon blog, c'est pas ça. C'est de la qualité. Enfin, j'essaye de faire de la qualité. J'essaye de prendre un sujet, de bien répondre à la question et que l'internaute qui a tapé la question dans Google ait une réponse et satisfaction. Donc, j'essaye vraiment de faire ça. Et je pense que c'est important d'ailleurs. Hein. Tu fais de la qualité. Tu connais bien ton sujet, très important aussi. J'avais déjà essayé de faire un autre site pour me diversifier, qui parlait de cosmétiques naturels. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas site de niche monétisé avec de l'affiliation Amazon. Donc tu parles de produits de cosmétiques naturels, tu mets des liens Amazon et tu crées du trafic comme ça, et les gens qui cliquent dessus, tu te prends une commission, ok. Sauf que ça s'est lamentablement cassé la gueule parce que j'en ai rien à cirer des cosmétiques naturels. Oui. Enfin, un petit peu quand même, voilà, mais je fabrique mon déodorant. Mais je veux dire, pas au point de faire un site.
Oui, voilà. Et puis c'est bien beau de le mettre en ligne, il faut le maintenir, quoi.
Il faut le maintenir, voilà. Si t'en as rien à cirer du sujet, ça sert à rien de te lancer. Si tu identifies un sujet, waouh, il y a un gros potentiel sur le dropshipping, mais je m'en fous du dropshipping, il faut pas faire de site là-dessus. Tu fais ton site sur le kite parce que t'es fan de kite, eh ben, vas-y, fais-le, parce que là, tu vas être motivé pour continuer à le faire. Moi, les bons plans, ça m'amuse. Je suis toujours à l'affût. On m'en propose, on vient me voir, ah, tiens, t'as testé tel truc, eh ben, je vais le tester. Ça m'intéresse de base, donc c'est pour ça que ça marche aussi, parce que je sais de quoi je parle et que ça me fait plaisir et que... Voilà.
Donc, il y a les liens que tu vends. Donc ça veut dire que tu vends du trafic que tu rediriges vers un site.
Oui, voilà. Ok. Ouais. Tu places un lien.
Ok. Et à ça, comment tu gères le prix? C'est eux qui te proposent?
Ouais, le prix, c'est un peu en freestyle, ouais. Mais là, je me suis quand même un peu plus structuré ces derniers temps, et donc j'ai quand même une grille tarifaire. Ça dépend de ton trafic, ça se compte en centaines d'euros.
Ok.
Voilà, moi, ça peut être entre, ça peut aller de 300 au plus bas à 800 au plus haut, voire
c'est
même peut-être plus.
Et
c'est
one shot. Trafic.
Et c'est one shot.
Ok, t'as pas de récurrent là-dessus?
Non, j'ai pas de récurrent. Après. Tu peux avoir des liens d'affiliation, ça c'est la plus grosse partie du truc, tout ce qui est affiliation, parrainage.
Et ça c'est récurrent pour le coup.
Ouais, c'est récurrent. Ouais. Pour n'importe quel site, tu fais un site de cuisine, tu vas parler des cocottes en fonte qui sont bien, et voilà, tu mets un lien vers les cocottes en fonte sur Amazon. Amazon, soit dit en passant, mauvais exemple parce qu'ils payent très mal. Mais et comme le dit si bien Olivier Roland, le plus rentable, c'est bien sûr de faire de l'affiliation d'infoproduits. Donc ton site de cuisine, si tu fais de l'affiliation sur une formation de cuisine, ça va te rapporter beaucoup plus, parce que le blogueur, il va vendre sa formation 500 € sur comment devenir un super cuistot, comment faire du batch cooking, tiens, le truc à la mode de Radin Malin, ça c'est très bien. tu fais des plats en grosse quantité le dimanche et ensuite tu les mets dans des petits plats congelés dans ton congélateur, comme ça t'évite de faire la cuisine toute la semaine et ça coûte moins cher.
Et t'as pas la flemme du Uber Eats au dernier moment. Voilà.
Putain, ça c'est le cauchemar, ce truc. Ouais. Toujours avoir une pizza de secours pour éviter les Uber Eats. Bon, enfin.
Ah, ça, je suis complètement d'accord. Oui, t'en parles dans le...
Ah, non, mais c'est
Bon, on va pas refaire le podcast, mais écoutez le podcast de Mathieu Stéphanie, il y a plein de belles idées. Moi, j'ai un peu bon plan aussi, hein, tu vois, donc je, ouais.
Mais faut pas normaliser Uber Eats, c'est un truc de fou, ça, c'est vraiment, quelle horreur. T'as le mec qui fait un blog de cuisine, qui va avoir une formation sur le batch cooking à 500 €. Ok, bah qu'est-ce que tu fais? Toi aussi, t'as un blog de cuisine ou t'as un blog d'étudiants fauchés, et tu vas expliquer ça. Et dans ton article sur le batch cooking, tu vas dire, ok, vous pouvez aller voir cette formation de Johnny qui a une formation sur le batch cooking. Va y avoir un lien traqué. Ce lien traqué, tu l'obtiens comment? Via le blog du gars, ou alors sur des plateformes où tu trouves de l'affiliation de produits comme ça, comme par exemple system.io de Aurélien Amaker, qui est très connu, voilà. Ouais. Tu mets ton lien, les lecteurs qui sont intéressés cliquent sur le lien, qui achètent la formation, et ben tu te prends une commission. Et en général, comme c'est des produits virtuels, où il n'y a aucun coût de production ni rien, et ben là tu vas te prendre la moitié de commission en général. Et le top du top, c'est quand il y a un abonnement, quand tu vends quand tu vends un produit avec abonnement, un blogueur qui va faire payer 100 balles par mois pour l'accès à son truc premium, et toi tu as amené un client vers ce blogueur là, et ben tu vas avoir la moitié de ça, donc tu vas te faire 50 € par mois tous les mois. Alors ça, c'est la théorie. Dans la pratique, c'est quand même difficile de vendre ce genre de truc. C'est pour ça qu'il faut faire du contenu de qualité et bien amener la chose. Et il faut que la formation dont tu fais la promotion soit aussi qualitative.
Bien sûr.
Parce que sinon, tu vas
dans créer ton audience.
C'est comme moi, hein, si je fais de l'affiliation vers... tu sais, il y a eu pas mal... On en a parlé entre blogueurs de bon plan. De l'histoire des sondages rémunérés, parce que on en parle, tu sais, on dit comment te faire de l'argent de poche, tu peux faire des sondages rémunérés, t'as un certain nombre de plateformes pour ça.
Je faisais ça quand j'étais étudiant,
ouais. Ouais, voilà, et t'as bien constaté que c'est galère.
Ouais.
Tu gagnes, moi je le dis bien dans les articles, je dis vous pouvez gagner 20-50 € par mois si vous êtes vraiment motivé, mais c'est pas il y a mieux
par ouais, au début ça allait encore, et après très vite la rémunération est tombée, c'était plus long
Ouais, et puis ça dépend des sites, donc
pareil, t'avais des trucs où tu t'enregistres pour faire des espèces de voix off,
oui, ça c'est encore autre chose, mais disons que t'as quelques sites qui sont un peu des arnaques, même beaucoup des arnaques, et moi j'évite d'en parler, mais ça m'est arrivé de parler de sites où c'était qui était sérieux au moment où j'en parle et qui s'avère ensuite être des arnaques. Et donc les sondages rémunérés, t'en as qui sont sérieux, je cite Ipsos par exemple, Ipsos Aisei, très bon site de sondages rémunérés, et puis t'en as d'autres, bon je préfère pas les citer, mais c'est vraiment c'est de l'arnaque quoi. Et donc ça il faut pas en parler parce que tu décrédibilises toi-même, tu perds en crédibilité, les gens ils vont plus te faire confiance, donc moi j'ai aucun intérêt à mettre en avant programme de merde. Voilà.
Et après, par exemple, moi, tu vois, en tout ce qui est cashback, bon, en France, ça prend pas trop, mais
enfin, si,
moi, ça commence peut-être.
Ça commence, ouais.
Ouais, moi, je m'étais mis très tôt,
ouais.
Peut-être 2013, 2012.
Ah ouais.
Non, pardon, 2014. Ouais. Et du coup, comme ça, j'avais parrainé quelques personnes, et puis j'ai oublié, mais pas beaucoup, 4-5. Hein.
Ouais.
Et la dernière fois, je vais sur mon compte, je vois 80 €.
Ah, nickel.
Ouais, en fait, c'était que les parrainages. Alors, j'imagine, j'avais fait des gros montants, parce que moi, en fait, pour vous expliquer le cashback, donc tu payes un truc sur Internet, tu passes par cette plateforme, tu as un montant qui t'est rétribué dans une cagnotte, parce qu'en gros eux sur leur site ils font aussi de la pub, et du coup c'est je sais pas la Fnac qui va donner une partie à ce site de cashback qui te le verse. Si tu parraines quelqu'un qui a découvert le site de cashback grâce à toi, il y a une aussi petite partie qui vient vers toi.
Ouais.
Et donc là j'avais eu moi donc la partie de cashback parrainage de 4-5 €, donc c'est qu'il devait faire un gros montant d'argent. Bref, voilà, donc il y a ça aussi.
Ouais, complètement. Mais de toute façon, cashback c'est vraiment le bon plan numéro 1 quoi. J'en parle souvent, c'est un truc tu sais, c'est ne pas utiliser le cashback, c'est comme ne pas passer ta carte de fidélité à la caisse quoi. Ça coûte rien de le faire et tu gagnes c'est 5% en moyenne. Ouais. Bon, ça dépend des sites, mais chaque fois que t'achètes, moi, à chaque fois que j'achète un truc, c'est cashback. Y a rien que je paye sans cashback, en fait. Même mes courses, même mes courses au supermarché. Je prends des, c'est nouveau quand même, hein. C'est pas encore, les gens ont pas le réflexe encore. Mais j'achète mes chèques cadeaux, des chèques cadeaux Carrefour ou Auchan ou quoi. Enfin, moi, Carrefour, sur un site de cashback. Et je paye 100 €, il y a 4% de cashback, et je récupère 4 € sur ma cagnotte de cashback. Et ensuite, je paye mes courses chez Carrefour avec ce chèque cadeau. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça.
Et si peu que tu prennes des produits où il y a un retour sur la carte cadeau, etc.
Là, la carte cadeau, c'est juste un code.
Oui, non, mais je veux dire sur la carte Carrefour, après, tu vois.
Ouais, mais c'est cumulable avec tout. C'est-à-dire que moi, cette carte cadeau de 100 €, là, je l'achète avec ma carte Binance, donc je récupère des crypto-monnaies dessus, déjà, premièrement. Ensuite, j'ai récupère du cashback. Ensuite, je cumule avec la carte de fidélité Carrefour. J'achète des produits qui sont, tu sais, des saucisses qui vont périmer le jour même à moins 50%, je les fous dans mon congélateur. Et donc, comme ça, on arrive à la limite à faire des bénéfices. Tu vois, j'utilise Shopmium, une application qui te rembourse des courses. Et puis, la petite cerise sur le gâteau qui fait déborder le vase, c'est que, ensuite, le cashback que je gagne sur eBay Club, une fois que j'en ai assez, je paye, en fait, pour l'encaisser, tu peux l'encaisser par virement, mais tu peux aussi l'encaisser par chèque cadeau.
Ah.
Donc voilà, une fois que t'arrives à 100 € de cashback, et ben, t'encaisses, tu prends un chèque cadeau Carrefour 200 €, et ce faisant, tu gagnes 4% en plus encore.
Parce que c'est plus avantageux pour eux de te donner un chèque cadeau.
Ouais. Okay. Donc ils te donnent 4% de cashback quand t'encaisses en chèque cadeau plutôt qu'en virement.
Et du coup, là aussi, toi,
ça s'arrête jamais.
T'as dû mettre des liens eBay Club ou iGraal, donc tu dois avoir du parrainage aussi de ça.
Ouais, bien sûr. Ouais. Ça, c'est une partie de ma monétisation. Okay. Je fais de la pub. Bah là, tu vas sur mon blog en ce moment, t'as une pop-up Poulpeo. Site de cashback. T'arrives sur Poulpeo et moi, bien évidemment, comme je suis un influenceur entre guillemets, j'ai négocié des partenariats avec Poulpeo, iGraal, eBay Club, les trois plus gros sites de cashback. Et ce qui fait que si tu t'inscris via mon site, à chaque fois, tu gagnes un bonus que tu peux difficilement trouver ailleurs. En tout cas, que tu n'auras pas si si un pote te parraine. Moi, iGraal, si tu t'inscris, tu gagnes 10 euros. Et je pense que bon, je vais pas dire combien moi je gagne parce que je crois que j'ai pas le droit et j'ai pas envie d'avoir de problème avec eux. Mais moi je gagne quelque chose qui est comparable à si ton ami te parrainait. Et e-bike club, tu gagnes 7 euros si tu t'inscris via moi, et Poulpeo tu gagnes 5 euros.
Bon, moi je suis déjà sur les 3, mais j'ai pas le réflexe. Tu vois, moi j'avais commencé avec iGraal, mais je vais pas comparer lequel donne le plus de cashback.
Moi aussi, au départ, je trouvais ça un peu galère. Et puis finalement, en fait, maintenant, à chaque fois que j'achète un gros truc, tu vois.
Oui, un gros truc, d'accord.
Fais quoi? Tu fais CTRL T 3 fois, hein, t'ouvres 3 onglets, tu check Poulpeo, eBay Club, iGraal, tu vois lequel donne le plus de cashback.
Non, mais c'est une hygiène à avoir, en fait, hein. C'est une habitude. Peut-être au début, pour les courses et tout, comme tu dis, certains vont trouver ça un peu galère de faire ces étapes, mais une fois que tu l'as fait, ça se fait
On parle pas mal de Emrys. C'est une coopérative de consommateurs. Là, je suis en train de faire un gros test là-dessus parce que je l'avais fait et rédigé l'article sur Emrys sur mon blog par un autre blogueur qui, lui, est complètement spécialiste de ça. Mais là, je suis en train de refondre le truc parce que ça a bien changé aussi et je le teste vraiment pour moi-même. Et donc, voilà, je suis en train de faire un long test d'Emrys pour vraiment savoir de quoi je parle. Encore une fois, important. Et j'utilise Emrys. Donc Emrys, c'est une coopérative de consommateurs qui achète des cartes cadeaux en gros pour toutes les enseignes. Et qui les revendent. Donc toi, t'as ton compte sur Emrys. Il faut se faire parrainer d'ailleurs obligatoirement pour être membre. T'as ton compte sur Emrys. T'achètes une carte cadeau pour n'importe quoi. Tu fais tous tes achats de ta vie avec des cartes cadeaux, que ce soit l'essence, les courses, n'importe quoi. Et ce faisant, tu gagnes des Emrys Coins. Et ensuite, ça se transforme en crédit d'achat. Et avec ça, tu peux racheter des cartes cadeaux plus tard. Donc en fait, juste, tu changes. Au lieu de payer en carte bleue, tu payes tout en carte cadeau. Et ça te fait gagner des points sur cette plateforme-là, Emrys. Et c'est comme ça qu'après, tu peux racheter des chèques cadeaux.
T'as un abonnement, je crois, non?
Oui, ça coûte 10 euros l'année.
Ah, ça va.
Mais c'est amorti, hein, si tu...
Mais je m'étais intéressé il y a quelques années. Peut-être 5 ans, ça paraît loin, Non, c'était les débuts, peut-être.
Non, ça existe depuis 2014.
Ah oui, donc c'est beaucoup plus.
Mais ça met du temps à décoller parce que les gens, ça demande de changer tes habitudes, de payer avec un chèque cadeau. Moi-même, au départ, je trouvais ça nul, je trouvais ça chiant. Et en fait, non, ta carte cadeau Carrefour, déjà, tu peux l'utiliser en plusieurs fois. Carrefour ou n'importe quelle autre enseigne. Tu l'utilises en plusieurs fois, tu payes 1 euro avec, tu payes 200 euros avec. Si t'as pas assez dessus, tu complètes avec la carte bleue. Tu peux compléter avec une autre carte cadeau, voilà, c'est vraiment comme si tu payais en carte bleue, donc c'est pas plus difficile. Et en fait, voilà, là t'as ce levier des cartes cadeaux, il est important. Soit tu utilises Emrys et tu fais toutes tes courses en carte cadeau Emrys et tu gagnes des points sur Emrys et t'évolues sur Emrys et tu peux t'acheter des cartes cadeaux pas chères. Soit t'achètes tes cartes cadeaux sur un site de cashback comme eBike Club ou Widilo ou quoi, et tu les payes moins cher et tu gagnes du cashback sur tes cartes cadeaux. Donc voilà, et ça c'est cumulable avec tout.
Intéressant. Et après, il y avait aussi les parrainages de banques en ligne.
Ouais, mais ça, c'est à l'ancienne. Hein. C'est vrai que j'en fais quelques-uns encore.
À l'époque, il y avait même qui se montaient avec des groupes et tout.
Ouais, c'est vrai. Mais banque en ligne, tant qu'on est dans les astuces de Radin Malin, franchement, ça sert à rien de rester dans une vieille banque. Moi, je dis Boursorama, c'est les meilleurs.
C'est clair.
Je vais chez Boursorama.
Moi, je suis... Alors après, quand tu veux un prêt immobilier, c'est un peu plus compliqué. Donc moi, je suis chez Bourso depuis très très longtemps. Enfin, moi, j'ai plein de banques aussi, que ce soit crypto, tout ça. Je sais pas comment j'ai de carte bleue, mais je pense que tous les malins... par contre, effectivement, moi, je me suis vu refuser des prêts parce que mon dossier était pas assez intéressant pour eux, je pense, à la base. Ils cherchaient des excuses et ils m'ont dit que j'étais multibancarisé et que j'utilisais principalement des banques en ligne. Donc pour eux, j'allais pas être un profil intéressant. En plus, aujourd'hui, avec le conseil d'investissement, ils savent qu'ils vont pas me caler des produits à eux. Donc c'est intéressant, mais si vous voulez faire un achat immobilier, pensez-y un peu à l'avance. Peut-être réutiliser votre banque classique 3-4 mois à l'avance.
Moi, je sais pas. Malheureusement, je dis du bien de Boursorama. J'ai un compte chez Boursorama, mais j'ai aussi un compte à la Caisse d'Épargne. C'est mon compte principal. Et j'ai un peu été forcé de le prendre pour investir dans l'immobilier.
Ouais, c'est ça.
Et donc, je suis encore chez eux et je paye 8 euros par mois, ce qui pour moi est une hérésie pour un abonnement et une carte bleue. Juste pour avoir ta carte bleue, c'est 8 euros, quoi. Lol. Mais bon. J'étais obligé de jouer le jeu pour l'immobilier.
Bon, après, une fois que tu l'as ton prêt, si tu sais que ça va pas y être demain, tu peux...
Tu peux tout rebouger si tu veux. Rebouger. Moi, j'avais envie de réinvestir après, donc voilà. Voilà, c'est pour ça que je suis resté chez eux.
Et, oui, et ça, c'est également important parce que la relation avec la banque, elle est quand même hyper importante. Mmh. Et eux, ils le voient, hein, tout ça, quand tu changes la délégation d'assurance, etc.
De toute façon, ils voient bien, ils doivent être un peu déçus parce qu'il n'y a pas beaucoup de mouvement sur mon compte caisse d'épargne. Hein.
Et eux, c'est ce qu'ils veulent, hein. C'est du mouvement.
Il y a mes prélèvements, il y a 2-3 paiements carte bleue, mais tout le reste, forcément, je paye tout en carte cadeau et je les achète avec Binance. Donc, le mouvement qu'il y a, c'est de l'argent qui va vers Binance. Voilà. Oui, ça les emmerde un peu, mais en même temps, ils ont qu'à pas, enfin, tu sais, ils sont tellement chers.
Et surtout avec la crypto, hein, pareil, ça, ils aiment pas non plus. Hein.
Ah bah, ils aiment pas. Ouais, d'ailleurs, ils associent ça à des jeux d'argent. Pour eux, c'est comme si t'allais au casino.
Donc, autre point, tant qu'on y est, 3-4 mois avant, puisque pourquoi? Parce que quand tu veux faire un prêt immobilier, regarde sur, en général, 3 mois avant tes relevés de compte, essayez de pas faire de virement ou, dans un sens comme dans l'autre, vers les plateformes de crypto-monnaie.
Et oui, bah, j'ai une copine qui a été bloquée dans un investissement immobilier parce qu'elle avait viré de l'argent sur crypto.com.
Ouais, exactement.
Et c'était même pas pour investir en crypto-monnaie. Moi, quand je fais des virements sur crypto ou sur Binance, c'est pour avoir de l'argent
pour
sur
utiliser la carte.
Pour utiliser la carte, c'est tout. Voilà, mais eux, ils cherchent pas plus loin. Quoi. Non. En plus, ils savent même pas de quoi il s'agit. Enfin, c'est des gens qui s'y connaissent beaucoup moins en investissement que toi ou moi. Discrètement, franchement, les conseillers caisse d'épargne, c'est des vendeurs. C'est des vendeurs. Ils sont là pour te refourguer un truc. Quand ils te parlent, quand la caisse d'épargne paye un mec pour dépenser du temps pour te parler d'un truc, c'est pas pour te conseiller, hein. C'est pour gagner de la thune, quoi. Et ça, il faut jamais l'oublier. Moi, à chaque fois qu'ils ont essayé de me refourguer un truc, j'ai dit non. Sauf quand c'est vraiment intéressant pour moi. Mais c'est rare. Ils ont essayé des assurances vie.
C'est pas moi qui l'aurais dit, parce que, du coup, c'est vrai que moi, c'est un peu de ça que je combats, hein, dans mon métier. On est pas là pour parler de moi, mais c'est vrai que, c'est quelque chose qui a beaucoup changé, cet environnement-là, et les conseils bancaires, moi j'en côtoie pas mal, et c'est aussi les premières victimes, hein,
oui c'est sûr,
parce que on les force à avoir des quotas, tu vois, le mois du plan épargne retraite, le mois de l'assurance vie, et en plus on leur demande maintenant de vendre des assurances pour ta moto, ta trottinette électrique, des alarmes. Donc c'est un métier qui a changé.
Ils font ce qu'ils peuvent, mais c'est des vendeurs, tout simplement.
C'est sûr.
Des vendeurs. Et quand ils essayent de me refourguer la dernière fois une assurance vie avec des frais, t'es pas prêt, quoi. Je me dis, mais je prends pas une assurance vie dans une banque traditionnelle, hein. C'est hors de question, quoi. Tu perds de l'argent, donc non. Voilà. Excuse-moi, je me suis un peu éloigné.
Non, mais c'est intéressant.
Comment j'en suis arrivé là sur mon blog.
C'est parfait. Écoute, on retombe vite. Bah oui, parce qu'en plus, moi, j'aime beaucoup ça. Donc,
c'est naturel.
Non, on était sur l'aspect monétisation. Donc, toi, au final, avec tous ces cashbacks, etc., tu peux faire tes courses, quasiment gratuitement. En plus, t'as des revenus à côté. Donc, au final, c'est comme ça aujourd'hui que tu...
Gratuitement, non, mais...
Oui.
Mais ouais, c'est un mélange de bons plans. Et oui, pour le blog, donc, pour le business model, je t'ai dit, affiliation, parrainage, vente de liens de visibilité, des trucs sur les réseaux sociaux, des fois.
Okay.
T'as la pub, Google, la pub Google, quand t'as un site avec suffisamment de trafic, tu t'emmerdes pas, tu mets un petit code de pub Google et puis il va mettre les pubs à ta place.
Ah oui.
Alors des fois c'est un peu relou quand même, les placements des pubs, c'est vrai que des fois c'est un peu...
Ça c'est le risque, c'est que ça peut être des pubs qui ont aucun lien, qui soient pas adaptées à ton contenu.
Non, elles ont un lien.
Elles ont un lien, ok.
Et en fait, d'ailleurs, petit mot sur les cookies, c'est bien, bien chiant. Moi, ça, j'aime pas du tout les cookies. J'en ai rien à cirer. Personne lit les conditions de toute façon. J'étais obligé de mettre une barre cookies, hein, comme tout le monde, mais c'est horriblement chiant. Et puis, les gens, ils veulent pas de cookies. En fait, c'est ça. Les gens veulent pas de cookies. Ils veulent pas de pub, mais ils veulent pas payer non plus. Voilà, donc tu fais comment? Tu peux pas, enfin, les cookies, au bout d'un moment, c'est un peu obligé. Moi perso, je m'en fous. De toute façon, on est tracé. Bon, je sais que de toute façon, on est tracé. Les publicités ciblées, ça existe. Même s'ils y arrivent pas avec les cookies, ils arrivent à te tracer autrement et à te proposer de la pub ciblée. Bon.
Oui.
Qu'est-ce que tu veux? Moi, je m'en fous. Je me dis, en tant que consommateur de contenu, je vais sur un site et j'y vais gratuitement et je consulte un truc gratuitement. La moindre des choses, c'est que j'accepte les cookies.
D'accord.
Tant pis. Tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Après, ça m'empêche pas d'avoir mis quand même un adblock. Avant, j'avais pas d'adblock, mais c'est pour YouTube que j'ai mis ça, parce que YouTube, ils abusent, tu vois. Un peu de cookies, un peu de pub, ça va, mais trois pubs avant une vidéo de 2 minutes, faut pas abuser, quoi. Donc, effectivement, j'ai mis un adblock sur YouTube un peu à contre-cœur.
Alors, moi, j'ai pris YouTube Premium en me basant avec un VPN en Argentine. Du coup, ça me coûte 2 euros par mois.
Ça, j'en parle aussi. T'as un truc dont je parle énormément en ce moment, parce que franchement, je trouve que c'est super bien. C'est Gamsgo, ça s'appelle. C'est une plateforme de... C'est comme Split pour Netflix. Ouais. Là. C'est une plateforme qui prend des abonnements Netflix en Argentine et familiaux, et qui ensuite te revend la place, tu vois.
Ah.
Et tu vas payer 3 euros par mois ton abonnement Netflix. Ouais. Ça marche avec YouTube Premium, Disney Plus, Spotify. C'est un super bon plan, ce truc-là. C'est trop bien. Tu payes rien du tout. T'as accès à tous les, tous les abonnements. Et ouais, donc la technique du VPN, super technique aussi. Ouais.
Bon, on est reparti avec bon plan, mais tu vois, on peut pas s'empêcher. Ah oui,
ouais. Mais abonnement YouTube Premium, ouais, tu vois, mes limites, c'est plus sain. Hein. Ouais. Franchement, c'est plus sain quand tu payes ton abonnement plutôt que de l'avoir gratuitement. Mais si jamais tu l'as gratuitement, on a les cookies. Et oui, je parlais des cookies, excuse-moi, parce que les pubs ciblées, quand les gens acceptent les cookies, c'est mieux pour la monétisation, quoi. In fine, ça rapporte plus d'argent. Si tu refuses les cookies, tu rapportes moins d'argent au site, quoi. C'est comme si t'avais un adblock.
Moi, j'accepte toujours, parce que comme tu dis, de toute façon, on est traqué.
Oui, de toute façon, ça change quoi, voilà. Et puis en plus de ça, avant, j'avais un plugin qui s'appelait I Don't Care About Cookies.
Okay.
C'est une extension sur les navigateurs. Et je sais plus si elle accepte ou elle refuse. Non, je crois qu'elle refuse systématiquement, ou alors elle cache les barrières, les bandeaux de cookies. Et donc, t'as plus à t'en soucier, quoi, parce que moi, j'en ai rien à cirer.
Ouais.
Et sauf que les sites marchent mal avec ça. Bah ouais, parce que souvent il faut accepter les cookies. Pour le cashback, si t'acceptes pas les cookies, ils peuvent pas te traquer, du coup t'as pas ton cashback.
Oui, parce que derrière, revendre de la donnée sur tes habitudes.
Même pas, non. Alors peut-être que oui, je sais pas, tu vois ce qu'ils font, mais le principe du cashback, c'est de l'affiliation.
Ouais.
Tu vas sur iGraal, tu cliques sur le lien Fnac pour aller pour aller acheter ta machine à laver et récupérer tes 5% de cashback. Eux, pour te traquer, bah il faut bien que t'acceptes les cookies. C'est obligé, c'est comme ça que ça marche. Si t'acceptes pas les cookies, ils peuvent pas te traquer et t'as pas de cashback. Voilà.
Ok.
Donc c'est important à savoir pour tous ceux qui nous écoutent et qui veulent monétiser leur site. Voilà. C'est comme ça que ça marche.
Bon, en tout cas, déjà tu te lances, tu fais quelques articles, tu fais de la qualité, tu vas pas dans la facilité, et petit à petit t'arriveras à, si tu te débrouilles bien et tu te renseignes un peu, à monétiser par divers moyens.
Pour moi, c'est ça. Sachant qu'il existe beaucoup d'autres chemins de traverse, et tu peux très bien trouver ton bonheur en faisant ce qu'on appelle du black SEO, ou en utilisant des techniques plus de magouille, on va dire, où tu peux récupérer des domaines expirés et construire des sites dessus, ou alors faire du content spinning, ou des trucs, voilà, des techniques qui consistent à faire monter des sites.
Donc ça va être après de la base normale à upgrader un peu.
Mais ça c'est vraiment des techniques pour ceux qui aiment bien le SEO, le référencement, tout ça.
Ouais, donc l'SEO, c'est comment je vais mettre des mots-clés, comment je vais me débrouiller, en tout cas pour que je monte dans les recherches Google, c'est ça. Et ça, c'est la majeure partie de ton travail aujourd'hui, du coup?
Non, c'est une grosse partie, parce que quand j'écris un article, il faut quand même que j'ai en tête l'intention de recherche de l'internaute, parce que tu peux écrire le meilleur article du monde, mais si personne ne tape ces mots-clés-là dans Google, personne va le lire.
C'est-à-dire que tu te dis, je veux faire un article sur... je sais pas, donne-moi un thème.
Sur comment faire du batch cooking, encore une fois.
Comment faire du batch cooking. Donc là, tu vas te dire, bah tiens, quelqu'un qui veut faire ça, mais qui connaît même pas le terme de batch cooking, il va peut-être taper comment préparer mes plats de la semaine, ou comment cuisiner en gros.
Ouais,
donc là, il faut que t'aies cuisine, il faut que t'aies plat, il faut que t'aies... Ouais. C'est ça,
ton boulot dans la recherche de mots-clés, c'est de te demander que va taper l'internaute pour pouvoir tomber sur ton article. Parce que, erreur de débutant, je pense, et moi je le pensais au début, je m'imaginais que les gens vont me lire que le trafic va venir des réseaux sociaux. Et c'est pas vrai, hein, les réseaux sociaux, ça représente une petite partie de mon trafic. Tu postes un truc sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, déjà peu de monde va cliquer dessus. Alors sur Instagram, c'est encore plus vrai, parce qu'il faut leur dire que le lien est dans la bio, ils arrivent sur un Linktree et c'est la galère. J'ai très très peu de trafic d'Instagram. Alors qu'un article de blog, tu le postes et 10 ans plus tard, il y a encore des gens qui vont dessus via Google. Donc tant que Google ne change pas ses règles, hein, parce que je touche du bois, j'espère que ça n'arrivera pas. Mais voilà, ça marche comme ça, t'as du trafic encore des années après. Par contre, Instagram, tu sais, t'as T'as beaucoup de gens qui vont sur Instagram, qui essayent de devenir influenceurs, et c'est très bien, mais si jamais Instagram te censure, déjà, bah, tu l'as dans le baba. Moi, je suis très présent sur... Enfin, j'étais très présent sur TikTok, parce que ça marche bien, c'est rigolo, je fais des vidéos spontanément, et voilà. Mmh. TikTok, maintenant, mon compte, il est semi-bloqué, parce que je peux plus poster de vidéos, pour le moment. Il existe encore, tu vois. Mais du coup, je vais plus en poster, parce que à chaque fois que je fais une vidéo TikTok... ils me disent ouais non c'est de l'arnaque, même pas, ils me disent même pas que c'est de l'arnaque, hein. Ils me disent votre contenu a violé les relations, les conditions communautaires, je sais pas quoi, du coup on vous l'a bloqué, sans plus d'explications, tu vois, c'est très vague les explications, tu peux pas les contacter, tout ce que tu peux faire c'est cliquer sur un bouton pour demander une réévaluation du contenu, tu sais pas de quelle manière, par qui, sous quelles conditions c'est réévalué, et quelques jours plus tard, si t'as de la chance, si TikTok le veut bien, c'est réévalué, et peut-être que ce sera classé comme finalement cette vidéo elle est ok, et puis sinon ils te disent non, c'est vraiment du contenu de merde, c'est vraiment, ça ne respecte pas nos consignes, toujours sans te donner plus de détails, et ils te la bloquent définitivement, et tu peux rien faire, tu peux rien faire. Alors que c'est pas de l'arnaque, tu vois, ils me disent que mes trucs, c'est de l'arnaque. Pourquoi ? Parce qu'en fait, t'as un algorithme TikTok qui a détecté que ça parlait de gagner de l'argent, ou de faire des économies, ou de cliquer ici pour en savoir plus, et il s'est dit, ok, ça c'est de l'arnaque, donc il t'a flagué direct. Et qu'est-ce que tu peux faire ? Tu peux rien faire. T'es pas chez toi, sur TikTok, c'est pas chez toi, Instagram, c'est pas chez toi, t'es pas à l'abri qu'un jour tu te fasses censurer, tu te fasses frapper par l'algorithme, et là, bah, tu peux plus rien faire. Encore une fois, donc c'est bien d'avoir des réseaux sociaux, c'est cool, mais le trafic ne vient pas de là. Si t'as un blog, il faut te concentrer sur ton blog avant d'aller sur les réseaux sociaux, même si tu peux en faire, mais c'est pas le truc principal.
Ouais, très bien. Je sais plus où je voulais en venir, j'avais un point sur les Google, exactement. On parle d'acheter des mots-clés.
Ouais.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Acheter des mots-clés, mais ça c'est encore autre chose, ça c'est c'est le SEA, ça c'est le référencement payant. Ça c'est complètement autre chose. Tu peux créer un business autour de ça, hein, complètement. C'est t'achètes des mots-clés, ben regarde, tu vois, je vais prendre un exemple que j'adore, qui me fait marrer à chaque fois. Quand tu regardes la télé, t'as des pubs Carglass.
Ouais.
Et les pubs Carglass et surtout n'oubliez pas le .fr carglass.fr, et t'as même une pub maintenant qui est juste la pub, c'est, il parle même pas de pare-brise, il parle juste de comment aller sur le site de Carglass, tu vois, moi la dernière fois je regardais sur TF1 en prime time, t'as une pub Carglass et t'as une meuf, tout ce qu'elle fait c'est t'expliquer, elle a son iPad à la main, elle fait vous voyez quand je suis sur mon
c'est
iPad,
vrai, j'avais pas fait gaffe.
Je vais sur la barre d'URL en haut et je tape carglass.fr, attention bien .fr pour être sûr d'arriver chez nous. Tu penses bien que les mecs ils payent un spot publicitaire de 20 secondes en prime time sur TF1 pour expliquer qu'il faut bien mettre le .fr, tu penses bien qu'il y a un retour sur investissement là-dessus. Moi quand j'étais chez Air France, on nous disait surtout vous ne cliquez pas sur la pub Google, vous cliquez sur le lien Air France, le résultat naturel quoi, hein. Vous cliquez pas sur la pub parce qu'à chaque fois c'est, parce que quand on a les gens au téléphone, les clients, on les guide, on va cliquer sur la pub, tu sais, on tape Air France dans Google et on clique sur la pub. Alors moi je le fais pas, j'aime pas cliquer sur les pubs dans Google, mais
non plus.
Beaucoup de gens s'en foutent en fait.
Oui, ils font même pas gaffe parce
que c'est une pub, parce que Google
ça se voit, mais pour
Google de plus en plus il les déguise, hein, voilà. Et donc tous les conseillers clients d'Air France qui tapent Air France et qui cliquent sur la pub Air France multipliée par le nombre d'appels tous les jours, ben en fait ça leur faisait perdre énormément d'argent.
Parce qu'en fait, Google les facture au nombre de clics sur cette pub là.
Voilà. Et encore, quand c'est Air France qui paye, ça va parce que c'est Air France qui paye Google, parce que tu cliques sur le truc Air France et à chaque fois c'est 1 euro qui part, donc ça fait beaucoup. Quand c'est Carglass, le problème, c'est que les concurrents de Carglass, moi je suis France Pare-Brise par exemple, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais aller sur Google AdWords et je vais acheter des mots-clés. Donc je vais acheter le mot-clé Carglass. Je vais payer très cher parce que les enchères sont sûrement très élevées, hein, pour ce mot-clé. Je vais payer très cher pour me retrouver premier dans les pubs quand quelqu'un tape Carglass. C'est pour ça que Carglass dit aux gens de bien taper carglass.fr, parce que en tapant carglass.fr, tu arrives directement sur le site de Carglass, tu ne passes pas par Google. Alors que si tu tapes Carglass, la plupart du temps, tu arrives sur les résultats Google pour Carglass. Et là, dans les premiers résultats, t'as de la pub, et comme beaucoup de gens ne réalisent pas ou s'en foutent que c'est une pub, clique sur le premier lien sans réfléchir, ils se retrouvent à cliquer sur le lien Carglass qui a été payé par le concurrent de Carglass. Donc ils arrivent sur le site du concurrent de Carglass.
Ah ouais.
Et le concurrent de Carglass, combien il a payé pour ce clic ? J'en sais rien, ça peut être 5 euros, ça peut être 10 euros, parce que c'est la guerre là-dessus. Normalement, c'est pas aussi cher que ça, des pubs AdWords. Voilà. Je pense que moi, je l'estime à, je sais pas, entre 2 et 5 euros, je pense que ça doit coûter leur clic.
Le voilà. Lead.
Le clic. Le clic.
Le clic. Ouais. Le clic.
Ouais, non, mais c'est très cher, hein, des clics.
Sur tu maîtrises pas, en fait, en plus.
Hein?
Tu ne maîtrises pas. Bah.
Tu maîtrises pas. En fait, tu mets un budget. C'est que tu mets un budget en enchère.
Okay.
Donc les enchères se font à la volée. En fait, c'est tout le jeu. C'est Carglass. Voilà. Là, ils ont des équipes de SEA qui dont le seul boulot est d'estimer combien ils sont prêts à mettre aux enchères maximum par clic pour passer devant leurs concurrents.
Okay.
C'est quand même incroyable. Ouais. Et donc tu peux faire ce qu'on appelle du remarketing aussi. Alors il y a des gens qui font que ça. C'est leur moi je connais des gens en fait qui gagnent leur vie comme ça. Donc tu vas prendre un mot-clé. Alors t'as des programmes, les programmes d'affiliation en général n'autorisent pas à faire ça. Moi un jour j'avais un article sur Hello Bank, je parle d'Hello Bank, et j'avais du crédit pub gratuit sur Bing. Voilà. Et Bing ils te filent 50 balles pour tester leur pub. Donc j'ai fait ok, je vais acheter des mots-clés, je vais acheter le mot-clé Hello Bank. Et donc effectivement j'ai fait une Carglass à Hello Bank, c'est-à-dire que j'ai payé du trafic, j'ai payé de la pub sur Bing et Yahoo pour apparaître premier quand quelqu'un tape Hello Bank sur Bing. Sur Bing, pardon. Bon, c'est pas beaucoup de monde, mais quand même suffisamment. Et j'ai reçu un petit message gentil de Hello Bank qui m'a dit « Monsieur, s'il vous plaît, arrêtez ça tout de suite parce que c'est pas dans les... parce que c'est totalement interdit. Nous, on vous vire de notre programme d'affiliation si vous faites ça. Donc si tu fais ça, ça sert plus à rien de le faire si t'es pas affilié.
Ouais. »
Voilà. Donc tu peux faire ça, mais il y a des programmes d'affiliation avec lesquels tu peux le faire. Si par exemple, j'en reviens au truc de Olivier Roland, de faire la promo de programmes d'infoproduits, donc de formation de blogueur avec abonnement, des trucs très juteux. Dans l'immobilier, c'est les plus juteux, hein, c'est les plus rentables. Formation d'immobilier, le gars il vend sa formation à 100 euros par mois, il te file 50 euros par mois pour toi. Toi, comment tu vas amener du trafic là-dessus ? Soit via ton blog ou tes réseaux sociaux en faisant la promo de ce gars, soit directement en faisant de la pub sur Google. Donc t'achètes tes mots-clés, formation immobilier, colocation, je sais pas. Tu payes 5 euros le clic, on va dire. Encore une fois, je dis une connerie, c'est peut-être pas ça. Et c'est à toi de calculer, en fait. Si tu estimes que 10% des gens qui ont cliqué vont acheter la formation, ça veut dire que ça veut dire que chaque formation achetée va te coûter 50 euros. Et si chaque formation te rapporte 50 euros par mois sur un an, eh ben la question elle est vite répondue. Donc tu peux faire ça, tu peux payer des pubs à la place du gars qui vend sa formation pour faire sa pub à lui en récupérant ta commission à toi. Voilà, donc ça c'est le principe. J'espère que je vous ai pas perdu, mais il y a des gens qui en font un salaire, il y a des gens qui gagnent de la thune comme ça.
Il y en a qui disent qu'aujourd'hui avec Internet, ça n'a jamais été aussi facile d'être millionnaire, enfin en tout cas de faire de l'argent.
J'irai pas jusqu'à dire facile, mais en tout cas, tu peux trouver une piste qui te plaît et la creuser. La piste du remarketing, c'est une piste.
Ouais, il y a plein de pistes en fait.
Il y a plein de pistes.
Bon, les gens se rendent pas compte, mais ceux qui disent, tiens, j'ai pas d'idée. J'aimerais bien être entrepreneur ou quoi, j'ai pas d'idée. Ça peut être une belle...
Tu peux aller suivre une formation de n'importe quel blogueur qui lui-même a suivi Olivier Roland et qui va t'expliquer quelles sont les pistes pour gagner de l'argent avec Internet. Mais c'est compliqué, il faut s'y intéresser.
Oui, facile. Quand j'entends facile, c'est pas dans l'application, c'est pas... Enfin, c'est toujours... De toute façon, l'entrepreneur, c'est pas l'idée qui est importante, c'est la mise en pratique.
Ouais. Et je pense que, franchement, si je dois résumer ce qu'il faut... Pour réussir, il faut vraiment que ça t'intéresse. Il faut ne pas attendre le moment parfait et te lancer, même si ton site il est pourri. Et il faut être régulier. Il faut pas être dans le délire de faire l'erreur que font beaucoup de monde, c'est-à-dire lancer un truc, être super chaud et tout, et puis au bout de 2-3 mois en fait tu l'abandonnes. Non, l'idéal c'est tu trouves un truc et puis tu t'y tiens. Et tu dis comme moi, tu vois, tu vas faire un article par semaine quoi qu'il arrive, comme ça au moins t'as un truc solide au bout d'un moment. Si tu t'éparpilles trop, ça va pas marcher.
Donc là, si je reviens sur le passage à temps plein sur cette activité entrepreneuriale, au final, elle se fait assez bien puisque t'as attendu d'avoir une solidité de revenus pour le faire. Bon, il se trouve que derrière, ça retombe, tu relèves le bateau, ok, très bien.
J'avais investi dans l'immobilier entre-temps.
T'avais investi dans l'immobilier entre-temps, ok. Ouais. Et à cash flow positif ou à...
Cash flow légèrement positif, je me suis mal pris, mais au moins je l'ai fait.
Oui, voilà, au moins tu l'as fait, ça te coûtait pas d'argent, c'était pas un risque, c'était pas un revenu.
C'est ça.
Voilà, ok, très bien. Et du coup, aujourd'hui, tes journées ressemblent à quoi ?
Alors aujourd'hui, mes journées sont assez décousues quand même, je dois t'avouer. Et donc, c'est ce que je disais au début du podcast, le revers de la médaille de l'indépendance financière.
Ouais.
Parce que c'est bien joli hein, de vouloir être rentier ou alors de vouloir organiser tes journées comme tu veux, comme moi je le fais. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que t'es décalé par rapport au rythme des autres. Alors c'est bien, c'est appréciable, parce que moi maintenant, n'importe quelle urgence, n'importe quel truc, tu vois, il y a ma nièce, je lui passe le bonjour, qui était malade récemment, qui l'est encore, et qui était à l'hôpital, bon, rien de... Pas une question de vie ou de mort non plus, mais voilà. J'ai été dormir avec elle à l'hôpital, et puis je suis resté avec elle, quoi, pour la soutenir un peu. Ben heureusement que je peux le faire en fait. Ou alors mon appart, j'ai eu des problèmes d'appart, il a fallu que j'aille le rénover, que j'aille gérer ça. Ben heureusement que j'étais dispo pour le faire. Heureusement que j'avais pas demandé à mon patron des RTT ou quoi. Donc ça c'est cool. Si je veux partir en vacances, j'ai même pas à me demander est-ce qu'il va falloir que je demande à quelqu'un. Non, ça c'est bien. Mais par contre le revers de la médaille, c'est que voilà, c'est que t'es décousu. T'es décalé. Moi, j'ai du mal à me. Je voulais, comme je t'ai dit, je voulais aller dans un coworking. J'ai testé, mais j'arrive pas à me faire au rythme. Donc, tu perds un peu ton rythme. Voilà. J'ai du mal à me lever tôt. Je te le dis.
Après, chacun son rythme.
Chacun son rythme. Mais du coup, je m'organise à l'arrache. Très sincèrement, je m'organise à l'arrache. J'utilise pas Notion. J'utilise pas des trucs comme ça parce que j'aime bien tout faire tout seul. Ce qui est un peu un défaut. D'ailleurs, j'essaye de corriger ça en ce moment. J'ai une rédactrice qui est aussi une très bonne amie je suis en train de la former un petit peu pour qu'elle m'aide plus sur le
intéressant
blog. De temps en temps on la voit hein, sur le blog.
Et du coup c'est quoi aujourd'hui ton pourquoi, parce que si t'as un revenu qui est stable après quoi tu cours
en fait? Il est jamais réellement stable en fait le revenu. Moi j'ai toujours cette peur de manquer déjà en moi du fait de comment j'ai grandi cette envie de me sécuriser, et aussi le blog qui m'a déjà montré que tu peux quand même perdre du jour au lendemain beaucoup d'argent, donc rien ne dit que dans 6 mois je gagnerai ma vie encore avec le blog. Ça a toujours été, donc quand même en fait j'ai toujours cette motivation de continuer pour maintenir. En fait c'est un peu comme un travail salarié en sens que t'es quand même obligé de travailler, tu peux pas te reposer sur tes lauriers. Enfin tu peux pendant quelques mois, ça va continuer, mais après ça va arrêter, comme si tu t'arrêtes d'appuyer sur l'accélérateur quoi.
Ouais, bien sûr. Et du coup, là, t'estimes à peu près à combien d'heures de travail ta semaine?
Et en fait, c'est très dur parce que cette question, on me la pose souvent. Et moi, spontanément, j'ai envie de te répondre, je sais pas, 20 heures, 15 heures. Mais en fait, c'est pas vrai.
Ouais.
En fait, j'ai envie de te répondre ça parce que je crois que 20 heures, c'est la quantité de travail où... C'est quand je me concentre, en fait. C'est quand c'est le travail un peu profond. Mais en vrai, le travail superficiel, si tu le rajoutes à ça, donc tout ce qui est répondre à des mails, checker des machins, faire des factures et tout, là, je pense limite, on arrive peut-être à 35 heures, hein, je pense. Mais j'en ai vraiment pas l'impression.
Et puis toute la veille aussi, qui est peut-être pas du travail toute pour toi, veille, mais qui...
Ouais, parce que c'est vrai, d'un côté, la veille, les recherches de mots-clés que je fais entre deux cafés ou alors le soir avant de me coucher, finalement, s'il fallait que ce soit quelqu'un qui le fasse à ma place, tu vois, moi, c'est 20 euros de l'heure ou je sais pas. Donc oui, l'important, c'est que contrairement à quand j'étais salarié où je comptais les heures et je m'emmerdais et je me disais qu'est-ce que je fous là et tout, je bosse pour quelqu'un, c'est chiant. Là au moins je bosse pour moi, donc j'ai pas l'impression de travailler. Sauf quand les 20 heures par semaine où j'ai l'impression de travailler, c'est parce que justement je suis un peu obligé de le faire, donc c'est un peu une contrainte.
Oui, mais puis t'as en fait l'idée d'avoir la flexibilité du temps, et comme tu dis, de te prendre une journée, une soirée, un machin, même si tu le fais pas, même si tu bosses beaucoup, rien que ça, c'est une charge mentale en moins, je trouve, qui met moins de pression sur ton travail.
C'est très simple, je fais ce que je veux quand je veux. Mais après c'est peut-être un peu une prison dorée aussi, parce que j'ai pas de collègues vraiment, et c'est vrai que ça me manque un peu cette
C'est pour ça que je te posais la question du pourquoi et après quoi tu cours, parce que c'est le challenge. Moi j'ai un peu pareil hein, niveau rythme, alors il se trouve que je travaille pas mal, mais je me dis je veux faire mieux que l'an dernier. Pourquoi? Je sais pas, tu vois.
C'est comme un jeu, c'est comme
un jeu. C'est ça.
Moi aussi hein, je suis content quand j'ai tant de likes ou tant de trucs, enfin voilà, c'est toujours sympa. Donc après quoi je cours? Après, je pense que au bout d'un moment, alors ça c'est encore une autre histoire, mais je pense que je finirai par me lancer dans un autre projet entrepreneurial. J'ai un plan pour faire une école d'anglais. J'ai un ami à moi qui va le faire bientôt, et c'est une autre amie à moi qui elle gère toute la franchise du truc. Et donc voilà, c'est peut-être un truc dans lequel je vais me lancer.
Tu reviens vers ta passion des langues.
Ouais, ça voudrait dire m'éloigner de toutes les questions d'argent qui dominent un peu trop, je pense, dans ma vie. Parce que j'avais pensé à faire CGP, mais finalement, je l'ai pas fait parce que je me suis dit, non, vas-y, je suis déjà trop à fond dans la thune. Et s'éloigner de ça, ce serait sympa. Quoique, quand t'es entrepreneur, t'es quand même toujours là-dedans. Mais voilà. Donc, je pourrais faire ça, par exemple, pour reprendre un rythme et faire un truc dont je suis fier, en rapport avec mes études. Mais l'important, c'est, voilà, donc je suis passé par Internet. Je pense que si tu sais pas quoi faire de ta vie, ou même si tu sais quoi faire, mais Internet, voilà, il y a plein d'opportunités. Il suffit de se renseigner. C'est pas forcément évident tout le temps. Si tu sais pas par où commencer, tu peux lire le livre d'Olivier Roland. Je pense que c'est une très bonne piste. Même si je l'ai pas lu, je sais ce qu'il va dire dedans et je pense que c'est une très bonne piste. Pour la personne qui sait pas quoi faire, tu dis ça.
Ouais, c'est un mélange de la semaine de 4 heures, plein de trucs comme ça.
Je l'avais lu, la semaine de 4 heures, il m'avait bien marqué.
Il retourne un peu au début, sur les croyances.
Ouais, mais surtout sur tout ce qui est la logique de vendre ton temps.
Ouais. On en reparlera, mais effectivement.
Et après, c'est un peu toxique aussi. Attention, faut pas non plus. Si t'as la chance d'avoir un boulot passion et d'aimer ton boulot, je pense ou alors de t'en foutre, ou d'être bien dans ton rythme. Tu vois, si t'es boulanger et que t'aimes bien ton boulot, eh ben continue ton boulot. Va pas chercher à essayer de faire un business sur Internet. Apprends à être bien dans ton boulot. Si t'es prof, si t'es infirmier, continue, et que t'aimes bien, fais-le, continue.
Aller chercher quand même des revenus passifs à côté, je trouve que c'est important.
Ouais.
Mais soit par le biais de l'investissement, et dans ce cas-là, ils peuvent se faire accompagner.
Ils peuvent.
Ou alors, si t'as du temps et que t'as envie et que t'es curieux, pourquoi pas faire un peu de revenus sur Internet. Mais en side business, mais si t'as le temps et si t'as envie, mais c'est pas que ça devienne une prison. Ouais.
Mais c'est ça qui est bien, parce que moi, l'idée dès le départ, c'était de faire de mon blog un side business. Hein.
Ouais.
Mais en fait, c'est devenu une vraie activité. Finalement, je me suis lancé là-dedans, mais ça aurait pu rester un side business. Il y a beaucoup de blogueurs qui font ça.
Hein. C'était quoi ton plus grand défi?
Mon plus grand défi
dans la construction de
du blog, de tout ça, plus grosse difficulté,
on va dire. Ouais,
c'est quand je me suis fait latter par Google en 2020 et que j'ai perdu énormément de trafic et que je pensais vraiment que ça allait s'arrêter et que j'allais devoir retrouver un boulot. D'ailleurs, j'ai fait saisonnier dans un camping à ce moment-là pour m'éloigner un peu de tout ça, et finalement j'ai quand même réussi à reprendre un peu. Mais ouais, quand t'es bien parti et que ton truc il fonctionne et que t'es tout content, t'es tout fier et qu'ensuite ça se casse la gueule, là ça te fait tout drôle. Hein. Franchement, ça te donne un gros coup de blues.
Et j'imagine. Mais bon, en même temps, tu vois, aussi point important qui semble peut-être naturel pour toi, mais pour ceux qui sont jamais lancés, important, je trouve, quand ça va pas, tu peux retrouver un boulot assez rapidement au final.
Mais oui, c'est clair. Moi, quand je me suis barré de mon taf, de toute façon. Je m'en fous parce que je sais que je peux y revenir quand je veux. Alors moi, je parle allemand et encore aujourd'hui, mon téléphone est en allemand, mon ordinateur est en allemand. Je garde parce que l'anglais, tu y es toujours confronté, tu le perds jamais vraiment. Par contre, l'allemand, tu risques de le perdre. Donc je mets un point d'honneur à garder l'allemand, tu vois. Et je sais qu'en parlant allemand, je peux toujours me retrouver du boulot. Hein, ça. Et puis de toute façon, moi, c'est mon cas à moi, mais si toi t'as travaillé quelque part et que t'es spécialiste de ce truc-là et que t'as bifurqué sur ton business web et que ça marche plus et que tu veux revenir dans là où travaillais avant, t'as toujours tes contacts, t'as toujours ton ancienne entreprise, tu peux leur redemander. D'où l'intérêt de garder des bonnes relations avec les gens, de pas aller au clash, parce que si je m'étais barré de mon entreprise en disant ciao les connards, vous me faites chier, après pour revenir finalement t'as l'air con, quoi. Donc
Oui, rester correct.
Toujours rester correct. Tu pars faire ton petit biz. Et si ça marche pas, tu peux revenir.
Tout le monde dira, on te l'avait dit.
Voilà, c'est ça. J'ai un ami comme ça qui, lui, il est très. Il est très comme ça. Moi, je suis très précautionneux. J'ai peur de manquer. J'essaye toujours d'assurer mes arrières. C'est pour ça que j'investis dans l'immobilier aussi. Lui, il s'en fout. Il me dit non, mais de toute façon, moi, je suis confiant dans mes capacités à me trouver un boulot. Il n'y a pas de problème. Moi, ça me fait peur. Donc, on n'est pas tous égaux là-dessus. Et je pense que c'est lui qui a raison. C'est toi qui a raison aussi. Tu peux toujours retrouver un boulot après si ça marche pas, au pire. C'est pas grave. Moi, je traverse la rue, je trouve. Non, mais au pire, tu peux toujours trouver même un truc alimentaire.
Non, mais oui, c'est pas l'idéal. Et puis, ça peut te donner la force de te dire bon, allez, hop, je me remets un coup.
Ouais.
Donc intéressant.
Et je tiens à dire une chose aussi, c'est que moi, je pensais pas que j'en arriverais là. Si tu doutes de toi, tu te dis ouais, mais non, tel gars que je vois sur internet comme moi, hein, tu vois, qui est en train de se faire interviewer sur un podcast, alors comment t'as réussi à en arriver là? Putain, si je m'étais écouté il y a 10 ans, je me serais dit, oh là là, bah oui, mais non, mais ce gars, bah c'est parce qu'il y est arrivé et tout, mais moi j'y arriverai pas. Ou franchement, je suis parti de rien, j'ai rien, quoi. J'ai jamais eu d'héritage et j'en aurais jamais. Personne qui m'a expliqué quoi que ce soit, et finalement j'y suis arrivé, j'y aurais pas cru. Donc finalement, quand t'as des doutes comme ça, faut quand même y croire. Enfin, faut juste essayer. Hein. Tu te lances, tu vois, ça coûte rien, tu te lances. En plus, c'est vrai qu'avec Internet, ça coûte rien. Il y a 30 ans, ça coûtait de l'argent et du temps. Maintenant, ça coûte plus rien.
Et faire juste un pas, puis après, ça te plaît, un pas de plus, un pas de plus. Moi, je suis exactement comme toi, hein. Je pars de rien, je n'aurai pas d'héritage non plus. Un pas de plus, quoi. Juste tu testes, tu mets l'orteil dans l'eau, tu vois, tu vois un peu la température, tu mets jusqu'aux chevilles. Peut-être t'y vas, quoi.
Tu fais ton petit site, là, tranquillement, tu mets ton petit AdSense, tu gagnes un centime de pub la première fois, et là, je peux te dire, c'est grisant. La première fois que tu gagnes un centime, tu fais, waouh, j'ai gagné de l'argent avec mon site internet. Et tiens, petite pub pour ma sœur, si tu me le permets.
Bien sûr.
Ma sœur, pareil, hein, qui part de rien du tout, qui a aucune formation de business ou quoi que ce soit. Elle était coiffeuse à domicile et elle s'est dit, moi aussi j'en ai marre, je veux faire autre chose. Et tu vois, elle fait son... Et maintenant, elle a développé une gamme de produits pour les de teinture pour les cheveux, de teinture naturelle, en mélangeant enfin à base de poudre de plantes, tu vois. Donc vraiment sans aucun produit chimique, chose qui est assez dure à trouver finalement. Et elle s'est dit, sans rien connaître de tout ça, elle a fait toute seule sa gamme de produits. Et moi j'ai été impressionné parce que elle a ses produits, donc ses teintures qui sont... Ses produits sont beaux, tu vois, ils sont tous dans les règles. En plus, elle a payé des avocats pour savoir comment on fait fiscalement, pour la régulation, pour les réglementations. Elle est certifiée EcoCert et tout. Enfin, ça fait 2 ans qu'elle rame pour essayer de sortir son truc. Et là, ça y est, ça commence à sortir. Elle a son site. Je peux te dire comment ça s'appelle?
Bah, bien sûr, on mettra même le lien.
Voilà, vas-y, on mettra le lien. Ouais. Ça s'appelle Moreyalis.
Comment tu l'écris?
M-O-R-E.
Ouais.
I-A-L-Y-S. Et moi, je suis très fier d'elle parce que le résultat est joli. En plus, tu vois, sur les cheveux, c'est beau. Les produits sont jolis. Elle a réussi à le faire dans les règles légalement et tout. Son site, il est pas très beau et c'est très artisanal parce qu'elle a pas d'argent pour se payer un webmaster. Et moi, je l'aide sur ce sur quoi je peux l'aider. Ouais. Mais je suis pas non plus web designer. Ouais. Moi, je fais, tu sais, je t'ai dit, je prends le thème le plus simple et je fais comme ça, tu vois. Ouais. Je peux pas te faire un truc très chialé. Je suis pas dev.
Mais voilà. Tant que ça marche.
Et là, elle a été référencée chez 2 ou 3 Biocoq et 2 ou 3 magasins de vrac. Et c'est trop bien. Moi, quand j'ai vu ces produits chez Biocoq, j'ai fait, mais waouh, quoi, bravo, t'es parti de rien. Elle a pas du tout fait la fac, elle a pas de bac. Voilà, elle est partie de rien. Et c'est juste parce qu'elle avait l'envie de faire ça. Donc, de l'importance d'avoir l'envie de faire ton truc. Pas d'argent non plus, tu vois, et elle a fini par y arriver. Donc là, bon, c'est encore en train de décoller, hein, c'est pour ça que j'ai fait un petit peu de pub aussi.
Et ben pour avenir, hein, si elle est à Toulouse ou même en visio.
Franchement, pourquoi pas.
Et d'ailleurs, il y a un autre épisode en parlant d'épicerie vrac. Moi, j'ai une amie, Amandine, qui a lancé son épicerie, donc elle peut la contacter.
Ah ben ouais, ben franchement, tu me donneras le...
Allez, c'est la Pont des Demoiselles.
Ah ben voilà.
Et il a fait les 1 an demain. Son épicerie, donc
ouais, faudra que tu me le donnes,
hein. Ouais.
Mais voilà, je dis ça parce que ma sœur, pour l'instant, c'est encore tout début, et elle dit elle est déçue limite que ça décolle pas, mais ça fait genre 3 mois que ça existe.
Ah, moi, oui,
dis,
attends,
sois patiente, surtout que c'est des produits physiques. Mais voilà, la moralité, c'est que je suis impressionné de ce qu'elle a fait, qu'elle en soit arrivée là. Et c'est bien la preuve que ce soit moi ou ma sœur, t'arrives, tu peux le faire, voilà, que si t'as une idée, fais-le, tu le prends petit à petit, chaque jour suffit à peine, et puis ça finit par marcher. Et jamais ça marche pas, eh ben au moins tu l'auras fait, quoi.
Exactement.
Tu auras gagné de l'expérience. C'est vrai que c'est con, hein, on entend ça partout, c'est toujours les mêmes conseils. Et je te ressors les trucs bateaux et tout, des trucs, des vidéos de motivation et tout. Mais sauf que c'est vrai, hein, si t'as une idée, tu le fais et tu te lances. Et...
C'est le but de ce podcast, justement. Ouais. C'est que tu vois, tout le monde sort des trucs bateaux, mais c'est que ça marche. Ouais. C'est qu'en fait, à force de te dire, ouais, lui il a dit ça, lui il a dit ça, il a dit ça, à force, je vais peut-être essayer moi. Ouais. Et en fait, si jamais j'arrive à faire qu'une personne passe à l'action, c'est top quoi. Ouais. On retrouve que, il faut un réseau, cultiver son réseau, même si c'est qu'à la base t'as pas de réseau, tu vois, toi ça tient à petite chose, mais t'es sympa avec les gens, tu discutes, tu t'ouvres, tu fais un pas, t'apprends, et puis t'y terres quoi.
Ouais,
et
puis des fois tu rencontres des gens, moi la dernière fois j'ai rencontré un gars, il est loin dans l'immobilier, des gens qui ont fait des trucs, waouh et tout, mais ils sont super accessibles, super sympas, et puis même Mathieu Stéphanie, qui était super sympa, tu sais, il m'a parlé de comment il fait son podcast et tout, très accessible le gars, il est sûrement très occupé, je le reverrai sûrement pas, mais le simple fait de lui avoir parlé, ça m'a vachement
inspiré. Ouais. Et du coup, comment t'as eu le contact d'ailleurs?
J'ai juste appelé. J'ai juste contacté. Ouais. Ouais, parce que j'avais fait 2 ou 3 podcasts comme ça et je me dis, ça m'avait plu. Ouais. Mon budget zen et Thune, qui sont 2 podcasts sympas aussi, tu vois, ça s'est bien passé. Je me suis dit, vas-y, je vais envoyer quelques messages à quelques podcasts et on verra s'il y en a qui me répondent. Mm. Et Mathieu Stéphanie, ça a été ça. Et j'ai fait il me dit dès que tu passes à Paris tu viens me voir, et j'ai dit ok, je passe tel jour et voilà.
Et bien super, très sympa, moi j'ai beaucoup aimé échanger avec lui aussi,
super mec. Mais très inspirant, hein, tu sais, il va loin quoi dans l'entrepreneuriat, il fait des trucs, moi je me sens tout petit à côté de lui.
Oui, et puis en fait, mais c'est pareil, c'est des petits trucs, tu vois, moi je discute avec lui de comment il a commencé, de ci, de ça, c'est de la débrouille, et après ça devient plus gros, et puis ça débrouille à lui, c'est pas plus la nôtre, tu vois, mais il y a rien d'inatteignable dans son parcours.
Et et puis moi je pourrais aller beaucoup plus loin. Il y a des gens qui me disent pourquoi tu fais pas des formations, pourquoi t'embauches pas des gens, pourquoi tu fais pas un site plus gros et tout. Parce que je fais comme je veux déjà. J'ai pas de patron au-dessus de moi pour l'instant. Ça marche, tant que je gagne je joue. Mon site il marche comme ça, j'ai pas d'ambition de faire un site plus gros, de faire un comparateur de je sais pas quoi pour le moment, peut-être que ça changera, mais là je suis bien, je suis dans ma zone de confort. Alors c'est vrai que il faut sortir sa zone de confort,
après
je le ferai peut-être, mais en attendant je fais comme je veux, comme je l'entends. Pour l'instant, ça marche comme ça. J'aime bien ce que je fais. Je continue.
Quand on est heureux, c'est tout. Voilà. Moi, j'imagine beaucoup de choses. Tu vois, c'est des paliers avec un petit tremplin. Et si tu veux passer sur le palier de dessus, il faut mettre un coup d'accélérateur pour passer ce tremplin. Ouais. Et des fois, t'as pas envie de passer ce tremplin parce que le palier au-dessus, c'est bien. Tu sais qu'il y en a un au-dessus, sauf que tu vois pas les 2-3 au-dessus.
Ouais.
Donc, petit à petit, dès que tu passes un palier, bam, tu vois le suivant. Et puis après, tu vois où tu es.
C'est ça. Tu consolides un peu. Voilà. Et moi, bien évidemment, je pourrais aller beaucoup plus loin. Je pourrais me mettre en société, embaucher des content traffic manager, je sais pas quoi, et aller beaucoup plus loin que ça, bien sûr. Mais je t'avoue que j'ai pas vraiment cette ambition. Pour l'instant, je suis bien comme je suis, et si je vais plus loin, à mon avis, ce sera avec mon autre projet entrepreneurial.
Écoute, très bien. Moi, j'aime bien demander à la fin si t'as une citation favorite.
Je
te prends de court. Hein.
Citation favorite, ce serait à mon avis à chercher dans la philosophie stoïcienne.
Ok.
Je pourrais pas t'en sortir une comme ça, mais en tout cas les Marc Aurèle et compagnie qui t'enseignent comment qu'il faut relativiser. Non, en fait, vas-y, c'est pas du tout ça que je vais te dire. Je pense que pas une citation, mais une idée à retenir pour moi, c'est qu'il faut faire les choses et ne pas attendre de moment parfait.
Je partage à fond. Écoute, merci beaucoup pour ton temps, pour tout ce que t'as partagé. C'était hyper intéressant.
Ouais.
Et je recommande à tout le monde, du coup, d'aller voir ton blog.
Ouais.
Et également d'aller voir les produits de ta sœur.
complètement. Ouais. je mettrai je te donnerai le lien.
Parfait. Merci beaucoup.
Avec grand plaisir.
Merci beaucoup pour ton écoute et bravo d'être resté jusqu'au bout. Si tu as aimé cet épisode, écoute, je t'invite à le partager autour de toi. Pourquoi pas même mettre une super note sur l'appli de podcast sur laquelle tu m'as écouté. Un gentil commentaire, c'est le meilleur moyen de faire connaître ce podcast, de parler de jolis rêves et surtout de passage à l'action.